Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 29 juin 2020. Nous sommes de retour ce soir pour évoquer l'actualité du PSG puisqu'il s'est quand même passé quelque chose au cours de la semaine. On va parler de la prolongation de contrat de Levin Kurzawa qui a été officialisée il y a quelques heures. On va parler du cas Thomas Meunier puisque ça a été un peu compliqué entre son officialisation à Dortmund, les déclarations du Borussia, la réponse du PSG via la presse, etc. Donc on va en parler un petit peu puisque c'est une conséquence un peu des problèmes de contrat qui se posent beaucoup autour du PSG depuis des semaines. Et on finira avec une session de questions-réponses comme on a pris l'habitude de le faire en cette période un peu floue, il n'y a pas beaucoup de matchs et tout ça. Nous sommes quatre pour évoquer tous ces sujets ce soir. Nous avons, comme tous les lundis, l'historique. Bonsoir à toi, Mathieu.
Salut à tous.
Voilà, nous avons Omar qui est là, lui aussi.
Bonsoir tout le monde.
Les enfants sont là encore, c'est bon ?
En pleine forme, en pleine santé.
Voilà, bon, très bien. Et nous avons le retour de l'autre enfant du podcast. Simon, comment vas-tu ?
Je vais très bien, bonsoir à tous.
Voilà.
On a de retour.
Très bien, écoute, on est très content de t'avoir également. Dites-moi pour le son, puisque j'ai des petits problèmes de casque cette semaine. Bref, comme toujours, le son et Culture PSG, une grande histoire d'amour. Bonsoir à tous sur le live. En tout cas, je vois que vous êtes déjà un certain nombre. On me dit un tiers du podcast sur Meunier. Non, mais on va pas faire un tiers du podcast sur Meunier, vous inquiétez pas. Je pense que j'ai mis des thèmes comme ça. Je pense qu'on fera beaucoup plus de questions-réponses que d'interrogations concernant le cas du latéral belge. Ne vous inquiétez pas. On nous demande que Simon raconte l'anniversaire de Paredes. Est-ce que tu as fini de laver la Ferrari, Simon ? Il y a beaucoup de fans qui veulent savoir.
La Ferrari, c'est facile, mais la vaisselle, c'est plus compliqué.
Voilà. Il faut le dire, Simon n'était pas tout à fait à l'anniversaire de Paredes. Bon, voilà. Et tu as des gens qui te disent qu'ils t'aiment. Donc, beaucoup de gens contents de ton retour. En tout cas, quel star, ce YouTuber.
Bon, allez. Salut tout.
Voilà, on va attaquer sur la prolongation de Levin Kurzawa, qui a donc été officialisée cette semaine, qui avait été annoncée par la presse depuis quelques jours, RMC, France Foot, tout ça. 4 ans de plus, donc le latéral qui était sous contrat jusqu'au 30 juin 2020 est finalement engagé jusqu'au 30 juin 2024, parce que c'est un des contrats les plus longs du PSG actuellement, puisque seuls Marquinhos et Verratti et Diallo, à ma connaissance, enfin plus Icardi désormais, ont un contrat qui va jusqu'en 2024. Est-ce que c'est une prolongation logique selon vous ? Qui veut commencer ? Est-ce que c'est... Parce que, si je lance Mathieu, j'ai peur qu'il nous fasse un cours magistral de 5 minutes et qu'il nous dise « Bon bah voilà, le podcast est fini ».
Tu peux te lancer alors, Philo, si tu veux.
J'avoue que c'est une prolongation, en fait, je trouve, qui selon les angles, est à la fois très logique et qui ne l'est pas du tout, en fait. Je m'explique, puisque... Ça fait 5 ans que Levin Kurzawa est au PSG. Ça fait pratiquement 5 ans qu'on dit en début de saison, à part cette fois-ci, qu'il devrait être le titulaire. Et finalement, il ne l'est toujours pas. Il a été arrivé pour prendre la succession de Maxwell. Il ne l'a jamais prise. Il a ensuite été face à Berchiche. On attendait tous qu'il soit titulaire. Finalement, il n'a même pas réussi à prendre la place au Basque, qui s'est retrouvé titulaire, notamment sur tous les gros matchs avec Emery. Là, depuis 2 ans, on lui a mis Juan Bernat dans les pattes. C'est pas comme s'il avait spécialement gagné le duel face à l'Espagnol. Au contraire, puisque c'est quand même Bernat qui est devenu un titulaire indiscutable alors qu'il était au fond du trou, au Bayern. Donc, d'un point de vue sportif, même s'il revient bien sur l'année 2020, qu'on l'a souligné à plusieurs reprises dans le podcast, j'avoue que son bilan sur 5 ans est franchement pas bon. Donc, je suis vraiment perplexe. Est-ce qu'il faut donner... 4 ans de plus à un joueur qui en 5 ans à Paris n'a pas réussi une vraie bonne saison en fait. Après on regarde la réalité économique et soudainement évidemment 200 millions de pertes, le moindre arrière gauche un peu qualitatif que Duvise, genre Telles ou Tagliafico, c'est 25 voire 30 millions. Bon bah voilà, tu donnes 4 ans de plus à Kurzawa, mais même si tu augmentes son salaire, c'est rentable. Donc Je suis pas choqué par cette prolongation, mais j'ai quand même du mal à m'enflammer ou à m'en satisfaire. de par le rendu sportif sur les 5 dernières années. Ouais. Donc, c'est vraiment une des prolongations sur lesquelles j'ai plus de mal à me dire bonne ou mauvaise idée. Je la comprends, cette prolongation, mais elle peine à m'emballer. Quoi. On me dit financièrement et sportivement, c'est plutôt logique, on parle d'un numéro 2. Mais même en tant que numéro 2, je n'ai pas l'impression qu'il était spécialement performant sportivement. Donc voilà. Je ne sais pas, Mathieu, par exemple, pour commencer un peu, toi, ce que tu en penses un peu de cette histoire.
Bah, je vais être peut-être même un peu plus radical que toi. Je pense que sportivement, c'est un non-sens, dans la mesure où c'est probablement le joueur de l'effectif qui mérite le moins d'être prolongé. Parce que si tu prends la réalité de ses prestations sur les 5 ans, c'est un niveau qui est quand même extrêmement bas, extrêmement loin des attentes évidemment, mais même au fur et à mesure de ce qu'il a pu montrer, on en est arrivé à mettre la barre vraiment très très bas pour accepter des prestations comme celles qu'il a pu faire à partir de janvier, en disant bah oui, c'est des prestations correctes, c'est des prestations convenables. Ça reste des prestations... Oui, c'est mieux que ce qu'il avait montré les 4 années précédentes, mais ce n'est pas les prestations de latéral qui peut avoir des ambitions et qui peut concurrencer Bernat. Et on parle que de Bernat, là encore. Donc, du point de vue sportif, ça me semble difficilement justifiable, malgré tous les relativismes. Et pour preuve, le PSG a quand même essayé de le vendre en catastrophe, en fin d'mercato hivernal. Et même dans son interview récente au JDD, Leonardo en parlait comme d'un départ presque acté. D'ailleurs, personne ne se posait la question d'une prolongation. Donc, c'est un peu la preuve que dans l'esprit de tout le monde, le Kurzawa, c'était du passé et qu'on allait faire un upgrade, comme on dit, à ce poste. Ensuite vient le volet économique que t'as soulevé, Philo. Effectivement, c'est l'argument qui est le plus souvent repris en disant on va pas mettre 20 millions d'euros sur 20, 25 millions, 30 millions d'euros sur un latéral remplaçant, il y a d'autres priorités, c'est vrai. Mais quand tu regardes vraiment comptablement, la différence est pas si énorme que ça, parce que Kurzawa, il était à 5 millions d'amortissement par an jusqu'à cette année. C'est grosso modo ce qu'aurait été le prix, enfin l'amortissement d'un Alex Telles que tu aurais eu pour 25 millions d'euros grosso modo, et donc 5 millions d'amortissement annuel. Et au niveau du salaire, Kurzawa, il était entre 2 et 2,5 millions nets jusqu'à cette saison. On peut penser que Telles il touche moins que ça à Porto, donc le salaire qu'il aurait eu à Paris, forcément, ça aurait été un salaire qui aurait été augmenté, mais je pense pas que ça aurait été un salaire déraisonnable. Donc,
de ce que j'en sais, je me permets de te couper, de ce que j'en sais, le salaire proposé par le PSG était plus ou moins équivalent à ce que gagnait Kurzawa avant sa prolongation, donc voilà, c'était pas un salaire démesuré, et c'était pas pour Telles, qui a pas eu une carrière spécialement rémunératrice, j'ai envie de dire, c'était un bon salaire, mais c'était pas un salaire de fou. Même à l'échelle du PSG, c'était plutôt un petit salaire. Parce qu'on sait que Leonardo,
ça me surprend pas du tout ce que tu dis, Philo, parce que je crois que l'an dernier, l'Atlético lui proposait 3 millions bruts à Alex Telles, et c'est ce qu'on donnait à Kurzawa. Donc ça me surprend pas qu'on voilà. propose.
Et globalement, je me permets de passer ça, la réduction de la masse salariale est un point très important de la mission de Leonardo et sur laquelle il accorde beaucoup d'importance malgré tout. Donc c'est pas quand le PSG entre guillemets doit remplacer Kurzawa, c'est pas pour envoyer un salaire XXL sur un joueur à 60 millions quoi. Voilà.
Non mais en tout cas ce que je veux dire c'est que un Alex Telles au final entre l'amortissement et le salaire t'aurais pas coûté beaucoup plus que Kurzawa peut-être encore il aurait eu la prime d'impatriation pour le coup. Peut-être, je sais pas, 2-3 millions de plus par an, mais pas énormément. Par contre, Alex Telles, par rapport à un Kurzawa que tu prolonges, forcément, c'est un peu différent parce qu'il n'y a plus les 5 millions d'amortissement sur l'année prochaine. Mais en même temps, il y a une hausse du salaire de Kurzawa qui va passer de 3 millions bruts à 3 millions nets. Donc, pour le PSG, ça doit faire, je sais pas, ça doit faire quelque chose comme 1 million, 2 millions peut-être de plus par an. Oui, au total pour Kurzawa. Donc, au final, l'argument économique, je le trouve un peu léger. Je pense qu'il a dû se passer quelque chose d'autre. Est-ce que c'est une question de passeport? Là, on sait que la question des Français, du nombre de joueurs formés localement est une question importante au PSG, vu le nombre de joueurs qu'on a. Mais à ce moment-là, et notamment, on peut le relier à l'histoire de Kouassi. Selon certains, on s'attendait peut-être à le garder et peut-être que la décision de Kouassi aurait pu permettre, aurait entraîné plutôt la prolongation de Kurzawa. Ça encore, je sais pas trop, parce que quand Leonardo donne son interview au JDD, a priori, Kouassi lui a déjà annoncé qu'il ne poursuivrait pas au PSG. Donc là encore, j'ai du mal à faire le lien entre les deux. Donc pour moi, c'est une prolongation qui est assez obscure.
Je suis pas si sûr, Mathieu. parce que dans le timing de mémoire, l'interview au JDD visiblement est faite 3-4 jours avant qu'elle soit publiée. Et la news, pourquoi si ? Ça se peut, ça s'est joué à quelques heures près ou un jour près en tout cas.
Si c'est ça, c'est possible alors parce que Leonardo donne son interview le dimanche du coup et
c'est publié. Loïc
Tanzi, oui, publié. Oui. Et Loïc Tanzi donne l'info sur Kouassi la veille, le samedi. Voilà. Mais il dit que Kouassi a annoncé à Leonardo sa décision dans la semaine. Donc. C'est effectivement il y a peut-être comme ça une question d'heure, ce serait un peu étrange, mais est-ce que le PSG était à ce point confiant de garder Kouassi pour lancer des négociations pour Alex Telles à ce moment-là dès le mois d'avril? Je sais pas, ça me semble un peu gros quand même, mais bon, dans tous les cas, je sais pas exactement quels sont les ressorts et les dessous de cette prolongation qui sportivement encore une fois pour moi ne se justifie pas, et même selon le club de façon plus importante ne se justifie pas non plus puisqu'on a essayé de le vendre. Donc voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé pour Bernat? Est-ce que on avait prévu de vendre un joueur étranger aussi pour libérer une place d'étranger sur la liste? Mais peut-être qu'on a trouvé des difficultés dans les discussions avec son agent ou avec d'éventuels clubs acquéreurs. Enfin, il a pu se passer plusieurs choses en coulisses, mais c'est une prolongation qui, comme ça, de façon brute, j'ai énormément de mal à comprendre.
Très bien. Bon, donc toi, tu fais partie de ceux qui sont vraiment pas emballés. On nous dit sur le live, il y a comme quoi on est dur avec lui. En fait, je pense que ce que Mathieu a exprimé ou moi, c'est plus un bilan sur les 5 ans que sur les derniers mois. Parce que justement, cette saison, on nous a reproché d'être un peu trop gentil avec Kurzawa sur ses performances. Donc, c'est plus comme quoi, selon le curseur, chacun trouve midi à sa porte. On nous dit sur le live, la première année était plutôt bonne. Sa première année, ce qui a été incroyable, où effectivement c'était peut-être la moins mauvaise, c'était qu'il avait une capacité à être décisif pratiquement à chaque match qu'il a joué. Entre passes décisives et buts, surtout buts d'ailleurs, parce que c'est quand même un latéral qui a quand même un vrai sens du but, on ne peut pas lui retirer ça. C'est quand même le seul défenseur qui a mis un triplé, quoique ça a peut-être été égalé depuis, mais à l'époque c'était le premier défenseur à mettre un triplé en Ligue des Champions, je parle. Donc voilà. Ensuite, c'est vrai qu'il a globalement eu du mal à s'installer sur la durée. On nous dit sur Telles, ça aurait été fait avant le 30 juin. Alors ça, vu les besoins de Porto, mais visiblement, Telles ne partira pas avant le 30 juin de Porto, en tout cas, quand même. Hein, donc voilà. Et on nous dit, c'est vrai que Telles ou Tagliafico, il serait peut-être pas venu pour être numéro 2 comme Kurzawa a accepté de l'être. Après, Telles ou Tagliafico, ils sont aussi dans des clubs inférieurs au PSG. Et s'ils signent au PSG, ils acceptent aussi une concurrence. Hein. Ce ne sont que Telles et Tagliafico, des mecs qui ont respectivement 27 ou 28 ou 29 ans par là, quoi. Donc c'est pas non plus.
Et puis il y avait quand même des négociations qui sont avérées pour avec Porto pour Telles, donc j'imagine qu'il y avait à minima un agrément du joueur.
Oui. Ouais. On nous parle de Sergio Deste, mais ça n'a rien à voir. Et on nous parle de on me dit concernant un jeune du centre de formation qui aurait été possible. Et le problème, c'est que le jeune annoncé, il s'appelait Arthur Zagre, et que le pauvre, il a été vendu le 28 août dernier ou pas loin pour trouver de l'argent pour faire venir Keylor Navas. Alors bon, vu le niveau de performance de Keylor Navas, on peut pas trop regretter cette vente. Mais voilà un peu ce qu'il en est concernant Zagre. Et concernant le prochain arrière gauche qui va signer chez nous, Zagre était de la génération 2001. Il a été vendu après avoir été signé pro. Sur la génération 2002, il y a Larkech, mais il ne voulait pas signer pro chez nous parce qu'il considérait qu'il n'avait pas d'avenir et qui est parti. On a fait signer Teddy Allo, qui est pareil, qui est un arrière-gauche de la génération 2002, mais il n'a pas vraiment aujourd'hui le niveau pour intégrer l'équipe professionnelle. Et après, il va falloir attendre sur les 2003-2004, les Nagé, Cissé et tout ça. Mais c'est très très jeune, il faudra attendre au moins 3-4 ans avant de pouvoir les espérer, même pas les voir, c'est les espérer pour le groupe pro. Sur la prolongation de Kurzawa, Omar ou Simon, concernant le volet sportif ou financier, par quel côté vous voulez attaquer la chose ?
Simon, malgré tout.
Vas-y, Simon.
Je me permets de relancer. Je serais un peu plus positif que Mathieu, quand même. Les raisons de sa prolongation ne sont pas si difficiles que ça à comprendre au final. Économiquement, tu vas t'y retrouver, forcément, vu qu'il n'y a plus d'amortissement, il n'y a plus rien. Et son salaire, même doublé ou fortement augmenté, reste un petit salaire pour le PSG. Puis c'est un joueur français formé en France, donc au niveau administratif, j'ai envie de dire, là aussi, tu t'y retrouves. Puis surtout, cette saison, il a été quand même un petit peu mieux si on prend les 5 années qu'il a passées à Paris en perspective. On dit que Paris peut être un peu une espèce de broyeuse, de poison mortel pour les jeunes joueurs français, pas tout à fait matures ou bien finis. Mais pour le coup, il s'est totalement perdu à Paris, que ce soit les performances, le physique, le professionnalisme. Paraît-il que Laurent Blanc, au bout d'une saison, s'il était resté au club, à l'issue de la saison 2016, aurait cherché à le faire partir déjà.
Oui.
Quand quand même, il n'était pas du tout.
Non, mais ça s'est mal passé.
Ou scandaleux.
Ça oui, s'est ça très mal passé entre Blanc et Kurzawa. C'est un secret de Polichinelle. Et oui, voilà, il a pas du tout aimé le joueur et c'était assez réciproque, visiblement. Donc, bon, ouais, après, ça peut coller ou ne pas coller entre un joueur et un coach. Hein. Ça, c'est pas non plus. Enfin, voilà, ça, c'est... après, visiblement, ça s'est pas beaucoup mieux passé avec Emery non plus. Donc, voilà.
Ouais, c'est pour ça, c'est un joueur qui a eu vraiment tous les problèmes possibles pour un jeune joueur français au PSG. Et il se trouve que cette saison, alors même qu'il était un peu au fond du trou, qu'on n'attendait plus rien de lui et que lui, peut-être, s'était un peu perdu totalement aussi, il a quand même relevé un petit peu la tête. Surtout qu'on lui avait promis plus ou moins un départ à la Juve qui a été avorté, qui mentalement ne doit pas être si simple que ça à encaisser, j'imagine. Qu'on parlait quand même d'un joueur qui était en fin de contrat, en fin de saison, qui du coup se devait d'aller chercher un nouveau travail, mais ça n'a pas toujours été possible vu le peu de temps de jeu qu'il a eu, ce qui est normal, hein, c'était pas un joueur qui pouvait prétendre à beaucoup de minutes vu le rendement qu'il avait eu précédemment, et il a quand même pu montrer des choses positives. Il y a eu non pas des excellents matchs, mais des prestations correctes d'un latéral d'un certain niveau.
Digne.
Exactement, des performances bien plus dignes. Je pense à son match à Dortmund notamment, où il a, allez, je vais le dire, il a pratiquement été le meilleur joueur de champ avec Verratti. Donc voilà, c'est plusieurs éléments qui mettent un peu la puce à l'oreille et qui font qu'au final, ça n'est que Kurzawa, que Bernat reste ou part, qui devrait rester le numéro 2. Donc j'imagine que ça devrait un peu mieux se passer. On parle d'un joueur qui a grandi, qui a pris de l'âge en tout cas. On parle d'un joueur qui avait envie de rester, ce qui est déjà pas mal, hein, vu que bon, des envies d'ailleurs auraient pu se justifier aussi vu tout ce qu'il avait pu traverser. Je rappelle que c'est avant tout de sa faute, hein, je le place pas en victime du tout.
Si, donc bon, attends, au justement, final, je me permets d'interrompre. Il y a aussi des moments où ça n'a pas été de sa faute. Quand il a des problèmes de dos assez importants, ça ne l'aide pas. Par exemple, la saison précédente, pas celle-là,
oui,
la précédente.
Il a eu beaucoup, de toute façon, c'est beaucoup, beaucoup de 40 matchs d'absence en 5 ans.
Voilà, donc ça fait 8 matchs par an. Bon, c'est pas non plus énorme, mais après, t'as 40 matchs, mais il y a aussi des matchs où, enfin, si t'as pris les chiffres au Transfermarkt, il y a aussi des fois où Transfermarkt t'es pas forcément au courant de la raison, mais notamment le dos a quand même été un souci très, 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 très régulier, quoi. Donc, ça l'a pas aidé quand même.
Il a joué blessé très, très longtemps avant son opération. Je pense qu'il a passé plusieurs mois blessé, comme beaucoup de joueurs le font un peu malheureusement actuellement. C'était le cas aussi l'année dernière avec Kimpembe et Kerrer qui jouaient blessés, donc forcément. Il y a toujours des aggravations dans ces cas-là. Kurzawa a vraiment été affecté physiquement. Après, vu la réputation qui traînait au niveau du professionnalisme, je ne l'exonérerais pas tout à fait quand même. Donc c'est forcément plus un mariage de raison qu'un mariage d'amour. En début de saison, ni Leonardo, ni personne, ni aucun supporter ne pensait très sérieusement pouvoir le prolonger. Bon, il se trouve qu'on est dans une situation très particulière et c'est pas si stupide que ça au final. J'imagine que ça pourrait bien se passer. Je garde espoir malgré tout, au-delà de l'affection que j'ai quand même pour le joueur, qui n'est pas très objective, on va dire.
D'accord. Omar, sur ce bon Lévin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es plutôt team Mathieu, team Simon, ou comme moi, team indécis?
Bah, sur le fait que la prolongation soit logique, bah, non, absolument pas. Bah, si on se place d'un point de vue purement sportif, 123 matchs en 5 ans, peu d'enchaînement de prestations notables et de qualité, une disparition complète de l'effectif pendant plusieurs longs mois, en effet pour des raisons de santé, mais aussi parce qu'il avait un niveau... sur et hors terrain, pas du tout adapté aux exigences du club. Donc, s'en sortir avec une prolongation aussi forte de 4 années, c'est tout bonnement un miracle. L'un des premiers miracles du monde d'après, je pense. Donc, non, sportivement, ça se justifie absolument pas. Et bien que j'ai aussi de l'affection, parce que c'est un garçon qui a souffert dans sa chair, et ça s'est vu. Il y a eu des images de lui assez difficile en larmes sur le banc du parc. Pour moi, il m'apparaissait clair qu'on tournerait la page de Kurzawa et qu'on opterait pour un autre choix pour aussi faire un saut de qualité à ce poste-là. Les 4-5 dernières prestations de Kurzawa ont, ont en effet été plus en adéquation avec ce qu'on peut attendre d'une doublure, mais ça n'efface pas à mes yeux 4 ans et demi d'un niveau qui a oscillé entre l'extrêmement mauvais, le catastrophique et le tout à fait. Enfin, je veux pas dire des mots trop forts, mais c'est vraiment des prestations nulles, quoi. Y a pas d'autres mots. Après, bien sûr que c'est un garçon qui a des qualités. On lui enlèvera pas le fait d'être un joueur éminemment décisif, parce que en jouant 123 matchs, il a mis 13 buts et fait plus de 20 passes décisives. Donc, c'est un joueur qui est capable d'avoir de la production et
Ça veut dire quand même, juste me permettre de te couper, ça veut dire qu'il est quand même décisif une fois tous les 4 matchs.
c'est beaucoup,
C'est beaucoup, pour
c'est
un latéral,
beaucoup,
c'est beaucoup, honnêtement.
c'est beaucoup et ça le, enfin c'est d'une part ce qu'il sauve. Je pense que c'est ce qui fait sa réputation. Mais aujourd'hui, 5 ans après son arrivée à Monaco, de Monaco, pardon, on peut pas estimer que ce soit un joueur qui ait progressé dans quelques domaines que ce soit, parce que sa capacité à être décisive offensivement, il l'avait montré à Monaco, il l'avait montré en équipe de France. C'est pour ça qu'il est venu au PSG, mais on attendait aussi qu'il passe le cap sur certaines choses, et ça n'a pas du tout été le cas, et c'est pas du tout effectif aujourd'hui, parce que c'est même pas, aujourd'hui, c'est même pas un numéro 2 qui peut chatouiller les chevilles de Bernat. C'est un remplaçant de fond du banc qui va osciller entre les matchs sans importance et des sorties de groupe. Donc, bah, très bien, il récupère 4 ans de contrat. Apparemment, il est de nouveau très apprécié de tous les supporters du PSG. Donc, très bien. Bravo, bravo à lui, bravo aux gens qui travaillent autour, parce que c'est une sacrée performance.
On peut même dire qu'il a un peu régressé sur ses points forts, parce que d'ailleurs, plus par faute des blessures et des problèmes physiques qu'il a eu, mais à Monaco, et même au tout début à Paris, c'était un latéral très explosif, qui multipliait, enfin physique aussi, qui multipliait les allers-retours dans son couloir, qui était capable d'aller finir vraiment les actions dans la surface, mais aussi d'arriver à la ligne de fond de terrain et pour pouvoir centrer, avec une bonne qualité de centre d'ailleurs. Et tu le vois de moins en moins faire ça à Paris au fil des années et au fil des blessures. Et à tel point qu'il s'est reconverti en latéral défensif cette saison, c'est un peu ça le paradoxe. Donc ça a été souvent lui qui a eu comme mission de faire le latéral, on va dire qu'il ne se projetait pas, qui restait en couverture de Neymar et du côté gauche en général, et qui faisait un peu le troisième défenseur central en phase de relance, donc pendant que Meunier montait. C'est un peu le paradoxe de Kurzawa, mais c'est un joueur qui a quand même perdu beaucoup sur ses points forts, je trouve.
Sur le plan physique, oui, c'est vrai que bon, on nous dit qu'il a quand même énormément progressé sur les stories Instagram et les vidéos TikTok. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça compte pour être prolongé? Peut-être. Il y a beaucoup de réactions sur live assez variables, assez variées, pardon, pas variables. Et on nous dit qu'Omar a envie de mourir. Non, mais Omar, rassure les gens,
Non,
tu vas bien.
je vais très bien. J'irai pas jusque-là, mais je pense que personne n'aurait parié, ne serait-ce qu'un même un pépin de raisin sur sa prolongation au début de saison, et même là pendant la période dans laquelle qu'on pendant laquelle on la période qu'on a traversée. 4 ans de contrat supplémentaire quand on affiche un bilan comme le sien, enfin ça tient vraiment du, enfin c'est, moi j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête.
J'avoue que c'est dans les prolongations de contrat, je pense que c'est une des plus improbables qu'on ait vues au PSG. Ouais. Après, on est dans une situation économique. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent, mais la situation économique, c'est vrai qu'on est dans une situation économique bah, unique, quoi, tout simplement. Donc, est-ce que, par exemple, vous êtes surpris? Bon, la prolongation, on a compris. Est-ce que c'est plus la prolongation ou la durée qui vous surprend, justement? Parce que moi, j'avoue qu'au début, quand on a évoqué 4 ans, j'ai dit, mais comment ça, 4 ans?
Moi, les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire. Puisque
Je peux dire.
demain, en 2000, enfin, si en 2021, on est dans un contexte où on a des pertes importantes, c'est-à-dire que si Draxler accepte de baisser son salaire fortement, on peut aussi imaginer le prolonger 4 ou 5 ans, parce qu'il sera au fond du banc et qu'il l'acceptera sans moucheter. Enfin, pour moi, là, et encore, Draxler a, à mon sens, des états de service plus importants que ceux qu'a eu Kurzawa au PSG. C'est pour juste donner l'exemple d'un joueur qui est en grosse difficulté sportive et qui approche de la fin de son contrat. Donc on peut tous imaginer maintenant.
Oui, enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que.
J'imagine que c'est pour protéger sa valeur marchande, peut-être les 4 ans, pour pas se retrouver, mais encore même, tu pouvais faire 3 ans comme ses agents pouvaient le proposer. Mais c'est vrai que c'est quand même une décision étonnante, parce que si tu voulais faire vraiment des économies, tu mettais Diallo doublure, à la rigueur.
Juste, on nous dit, est-ce qu'il a doublé son salaire ou pas? Alors, c'est la communication qui a été faite par son entourage, notamment via France Football, qui a été très bien renseigné sur le dossier, mais qui, clairement, vu les infos, ça semblait plus venir de son entourage que du club. Mais quand ils annoncent 3 millions d'euros net désormais, ça fait pas de salaire doublé en fait, puisque avant il était autour de 3 millions bruts, si je me souviens bien, d'après les estimations, non Mathieu, c'était ça.
C'est ça, c'est ça. Donc ça fait, je sais pas, 2 millions nets, quelque chose comme ça.
C'était, il a plus fait plus 50% que x2 en fait, on dirait. Mais voilà. Après, bah voilà, il a profité de son statut de joueur en fin de contrat. Bon, voilà quoi,
Après, 3
c'est.
millions nets, c'est pas forcément dérangeant en soi, parce que c'est ce que lui proposait la Juve en janvier. Donc quand tu signes un nouveau contrat, bon, déjà c'est une récompense, donc c'est normal que tu t'attendes à ce qu'il y ait une augmentation de salaire. Et pour le coup, avec Kurzawa, il reste assez limité. Et avec 3 millions nets par an, il reste l'un des plus petits salaires du club. Donc c'est pas, faut pas croire que le PSG a non plus cassé la banque
C'est
sur
possible.
Kurzawa.
On nous dit, est-ce que Kurzawa pourrait être revendu dès cet été en cas de proposition? Oui, mais par rapport au joueur qui veut s'inscrire un peu plus à Paris, ça paraît compliqué qu'il soit vendu dès cet été. En revanche, moi, les. Oui?
Non, juste, j'émettais une hypothèse. Est-ce que vous pensez pas que la prolongation de Kurzawa était peut-être une condition de son entourage au fait de rester pour les 2 derniers mois de la compétition, de la saison. Et comme le PSG n'avait pas Diallo, par exemple, enfin Diallo dans une condition physique délicate et visiblement incertain pour les finales et pour la Ligue des Champions, s'est pas retrouvé un peu obligé de prolonger Kurzawa et aux conditions de son entourage. Est-ce que ça pourrait pas être une piste qui expliquerait ce retournement de situation qui est quand même très inattendu et qui me semble venir un peu nulle part, parce que toutes les conditions qui pourraient l'expliquer, c'est des conditions qui étaient déjà présentes en mars-avril au moment où on négociait pour son remplaçant.
Après, c'est pas le PSG qui est revenu vers Kurzawa plutôt que le contraire. J'ai pas,
Non,
j'ai pas tout.
quand il y a eu des discussions avec son entourage pour prolonger de 2 mois, ça pouvait être une des questions soulevées, parce qu'on sait que ce qui pose problème dans ces cas-là, c'est l'assurance en cas de blessure, c'est ne pas compromettre son futur contrat. Donc peut-être que le clan Kurzawa a voulu pousser pour une prolongation plus longue comme condition à rester les 2 mois sur la saison. Mais après, j'en sais rien, c'est juste une hypothèse parce que j'ai du mal en fait à trouver les raisons qui expliquent ce revirement.
On nous demande est-ce qu'il prend une prime à la signature? Possiblement, oui, mais ça ne doit pas être monstrueux non plus. Hein. Moins que s'il avait signé ailleurs, hein, en globalement. Sur justement l'hypothèse de Mathieu, comme quoi ça peut être entre guillemets. Maintenant, ce qu'on me dit sur le live, c'est ça, c'est que l'entourage était surpris que le PSG revienne sur comment dire, sur le. Je perds mes
Le
mots.
sujet.
Le sujet, ouais, enfin que le PSG revienne vers eux quoi, pour prolonger plus que 2 mois visiblement. Bon, on verra, on saura pas. Simon sur ce que disait Mathieu sur un éventuel, comment dire, une éventuelle demande du clan Kurzawa, tu y crois ou tu crois que c'est surtout que le PSG a vu l'état des pertes et elle a fait bon, on peut pas se permettre de voir un nouveau joueur qui part en fin de contrat, tant pis, on le prolonge quoi.
Ouais, je pense que c'est plus ça quand même. Après, c'est pas impossible, hein. Après tout, on n'en sait rien. Mais je pense que c'est avant tout la volonté de garder un joueur qui est un numéro 2 professionnel, j'ai envie de dire, et qui posera pas trop de soucis s'il reste. Bon, c'est pas non plus si incroyable que ça quand tu connais la situation. C'est vrai que c'est vraiment très très particulier ce qui se passe. Mais une fois qu'on a remis dans le contexte et qu'on a pesé le pour et le contre. Enfin, c'est assez évident que le club devrait y se retrouver, ne serait-ce qu'à moyen terme. Et puis, 4 ans de contrat, c'est pas interdit de le revendre s'il fait quelques bons matchs, si un club de première ligue a besoin d'un latéral gauche remplaçant aussi. Latéral gauche, on parle quand même d'un poste où tu peux te retrouver en équipe de France s'il y a une blessure et si tu as fait 3 bons matchs. Et c'est ce qui était arrivé à Kurzawa l'année dernière. Donc bon, c'est pas non plus la mer à boire, quoi.
On nous demande quel est l'avis de Tourelle sur la prolongation. Bon, il n'a pas l'air mécontent du tout, hein, puisque enfin, en conférence de presse, il l'a souvent défendu. Là, il a quand même fait des déclarations dans le sens où il serait très content de conserver lui comme Bernat. Bon, voilà quoi. Il y a une remarque qui revient régulièrement. Ah oui, alors pourquoi on n'est pas allé voir un autre arrière gauche peu cher, type Camara, qui a signé à Nice pour 4 millions d'euros ? Bah, est-ce que le PSG préfère garder Kurzawa ou est-ce qu'il préfère aller chercher un arrière gauche à 4 millions d'euros qui a 26 ans et qui signe à Nice, qui n'a jamais joué un match de Coupe d'Europe ? Je pense que le PSG préfère aller chercher. C'est un peu comme la piste à Marie Traoré, par exemple. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher un joueur de 26-27 ans qui a très peu de références et tout ça, quoi. C'est un peu la question qui se pose. Je ne suis pas sûr que le PSG avait spécialement envie d'investir, de faire un pari très peu cher sur ce poste-là où il y a déjà, par exemple, Bernat, voire Diallo. Peut-être qu'il préférait une valeur un peu plus sûre malgré tout. Bon. C'est pas très clair, mais c'est vrai que sur le poste d'arrière gauche, on a eu soit des pistes très très chères, à savoir Télès, Tagliafico, Théo Hernandez. Vous avez d'autres noms en tête aussi qui vous reviennent là ? Il me semble qu'il y en a eu un autre, pareil, des trucs hors de prix, soit pas du tout de pistes en fait, d'où le Kurzawa prolongé. On nous dit, voilà, est-ce qu'il y a vraiment des arrières gauches qui seraient avec un vrai saut qualitatif avec le budget qu'on y mettrait ? C'est peut-être aussi un peu la question qui se pose. Est-ce que finalement cette proposition de cette prolongation pardon de Kurzawa, c'est pas une façon de dire bon bah tant pis, oui on a les rumeurs sur Flick Max, mais c'était il y a un bon moment, depuis le retour de Leonardo on n'a pas entendu la moindre chose. Est-ce que justement, donc pour revenir sur mon sujet, c'est pas une façon de dire bon allez tant pis, on valide Kurzawa et ça nous fait une recrue de moins à faire. Est-ce que vous le comprenez comme ça?
Ouais, totalement. C'est quand même beaucoup de facilité. Et que, enfin, le club a dû se dire, quitte à prendre un latéral qui t'apporte pas grand chose, autant qu'il soit déjà là et qui coûte le moins cher possible. Parce que, dans tous les cas, faire venir un joueur de l'extérieur, dans un contexte pareil, ça t'aurait quand même coûté plus cher, j'imagine. Et surtout, t'es dans l'incertitude. Alors que Kurzawa, bon, t'es à peu près sûr qu'il n'y a pas à t'offrir grand chose s'il se remet pas, s'il confirme pas les progrès qu'on a pu entrevoir récemment, en tout cas avant l'arrêt, mais ça reste la solution la plus simple et dans des temps un peu compliqués où il y a déjà beaucoup de fins de contrat, où t'as pas réussi à baisser les salaires de l'effectif durant le confinement, où t'as des pertes qui sont massives et qui étaient inattendues, à un moment tu fais du damage control et c'était une solution pas si idiote en fait. C'est possible qu'on se soit dit ici tous ensemble, si Kurzawa était parti et qu'on n'avait pas pu le remplacer, bah mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et peut-être fallait-il le prolonger. C'est pas impossible.
Mathieu, tu veux répondre à cette thèse de Simon, toi qui étais très contre tout à l'heure ?
Non, mais après, si tu veux, si le PSG prend cette décision, c'est que c'est pas une décision qu'ils prennent volontiers. C'est une décision qu'ils n'avaient pas prévu de prendre. Donc c'est forcément que des événements les ont contraints entre guillemets à faire ce changement et ce revirement d'opinion sur Kurzawa. Après, je sais pas, c'est vrai que tu peux dire oui, on garde le budget pour d'autres postes. Après, bon, c'est facile de dire on garde tout le budget pour le latéral droit, mais encore faut-il le trouver, hein, le latéral droit sur lequel mettre le budget. C'est pas forcément évident à ce poste-là, on l'a déjà évoqué sur les précédentes semaines. Donc oui, c'est une situation assez mystérieuse, assez obscure aussi parce que Leonardo avait annoncé son départ aussi. Dans l'interview du GDD. Donc, pour toutes ces raisons, c'est vrai que c'est un revirement qui est pas évident à saisir et à comprendre. Il y a forcément on peut émettre des hypothèses, mais forcément, on connaît pas la réelle situation du club et les raisons qui ont poussé à cette prolongation.
C'est vrai que t'as raison. Il faisait partie de ceux dont le départ avait été annoncé.
Il y a une question du GDD, de Solène Chérier du GDD, qui dit, et pour Kurzawa, Choupo-Moting, Meunier, est-ce que c'est la fin aussi? Et Leonardo qui répond, oui, on se dirige aussi vers la fin. Donc c'est, si tu veux, c'est pour ça que l'argument sur la situation économique, j'ai un peu du mal à le comprendre, parce que visiblement, on est revenu vers les conseillers de Kurzawa fin juin, mais à ce moment-là, pourquoi on les a pas contactés fin mai ou début juin? T'avais déjà ce panorama et cette vision sur l'état des pertes, sur l'état de la situation. Donc je sais pas, j'ai du mal à vraiment lier ça au contexte économique ou seulement à ça entre guillemets. C'est, pour moi ça doit être sans doute une combinaison de facteurs. Est-ce que c'est lié aussi à Kouassi? Est-ce que c'est lié à quelque chose qu'on ne sait pas sur Bernat? Vraiment il y a beaucoup de choses qui peuvent être possibles.
Pour toi il y a vraiment un élément qui nous manque et qui fait basculer le dossier en gros?
Ben pour qu'on revienne fin juin, en fait, j'ai du mal à voir ce qui s'est passé vraiment récemment en fait.
Ouais, je vois. On nous demande sur live, un international à 3 millions par an déjà amorti pour un numéro 2, où est le problème? Ben, le problème, justement, c'est que Kurzawa a été le numéro 2 pendant 5 ans et qu'il n'a pas non plus su vraiment être un numéro 2 performant, en fait. C'est surtout ça, le problème. Le prix, le fait qu'il soit amorti, tout ça, c'est très bien, honnêtement. Une doublure à ce prix-là, c'est parfait. C'est plus... aujourd'hui, la performance sportive pendant des années. Donc... C'est ça, en fait. Aujourd'hui, la partie la plus gênante, c'est vraiment le niveau de performance du joueur sur la durée de son contrat précédent. Alors après, bon, il c'est plus non plus le gamin qui débarque de Monaco, il a changé, il s'est probablement aussi calmé de par ses responsabilités dans sa vie personnelle, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un joueur qui a eu du mal à être performant sur la durée en tant que numéro 2. Quoi. C'est un peu ça qui fait un peu tiquer sur une prolongation aussi longue. Quoi. Après, moi,
peut-être que les 4 ans, c'est pour égaler les 9 ans de Sylvain Armand. Je ne sais pas si c'est...
Je vais pleurer, je reviens. Non, après, ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Leonardo, il va le revendre ou le remettre dans un échange. C'est possible aussi qu'il y ait un deal entre les deux parties, à savoir, écoute, tu repars pour aller 1 an, 2 ans, 3 ans avec nous, et puis ça se peut, nous, on ne te bloquera pas si tu veux un transfert à l'étranger, que tu as une bonne offre. Parce que je pense que le joueur avait aussi peut-être envie de passer à autre chose, de découvrir un autre championnat, notamment l'Angleterre, où je pense qu'il serait très bien, par exemple. On voit qu'un profil comme Digne s'éclate à Everton. Je pense qu'un Kurzawa dans un club anglais du milieu de tableau, Everton par exemple, ou même Leicester, Wolverhampton, ou ce genre de club qui aujourd'hui a les moyens d'être intéressant sans non plus vraiment t'obliger à te battre pour une place de titulaire. Tu peux vite être installé, on va dire. Peut être un challenge très sympa pour un joueur comme ça qui dans 2 ans aura 29 ans par exemple. À 29 ans, tu pars faire 2-3 ans dans un bon championnat ou un bon club ou même en Allemagne par exemple. Ça peut être, il peut trouver un bon club allemand comme ça pour avoir une expérience sympa à l'étranger et comme ça tout le monde y gagne. Le PSG perd pas aujourd'hui un joueur en fin de contrat, sachant qu'il en a déjà énormément remplacé. Lui, il fait 2 ans de plus à Paris dans un cadre quand même super sympa. Tu joues quand même la Ligue des Champions, le top 8 européen, etc. etc. Bon, tout le monde peut y gagner en fait sur cet aspect, mais c'est vrai que malgré tout, c'est bon, c'est compliqué d'imaginer que Kurzawa prolonge de 4 ans, sachant que, comme le bah, je sais pas, je crois que c'est toi Simon qui disais il y a 3 mois, personne l'aurait cru quoi. Voilà, sur live, on nous dit est-ce que ça peut être lié à Alex Telles qui aurait donné son accord à un autre club? C'est possible, mais est-ce que le PSG n'avait que Alex Telles comme piste, sachant qu'on est encore que le 29 juin, pardon, et qu'il y a quand même le mercato international n'est même pas ouvert. Ça paraît dur à imaginer quand même, à moins que le club ne veuille que Alex Telles, mais c'est non, enfin, entre guillemets, ce n'est que Alex Telles, il n'y a pas non plus de quoi se mettre à rate au courbouillon pour Alex Telles, qui est un joueur, sans vouloir être méchant, qui a 27 ou 28 ans, joue encore à Porto et qui n'a pas fait une carrière jusque-là montrant un niveau de top joueur européen quoi. Donc voilà. Sur cette prolongation en général, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Omar, Simon, Mathieu?
On va lui souhaiter bonne chance. Hein.
C'est tout, juste de ouais, la chance.
Bonne chance, Kevin. Bravo pour ta prolongation malgré tout. Et il faudrait que ça se passe bien. Ce serait mieux pour lui, ce serait mieux pour nous, surtout.
Oui, 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 non, c'est sûr que le PSG a quand même beaucoup à perdre parce que s'il se retrouve avec un joueur invendable pendant encore 4 ans, enfin 3 ans, parce que maintenant on peut mettre de côté ce mercato, ça va être très compliqué. Sur la partie. Enfin, autre cas qui est un peu lié justement à toutes ces questions de fin de contrat au 30 juin, on a Thomas Meunier qui a été un cas non négligeable, on va dire, dans l'actualité ces derniers jours, puisque vendredi, et sans réelle surprise, le Borussia Dortmund a annoncé sa venue pour 4 ans, puisqu'il a signé un contrat avec les Allemands jusqu'en 2024, qui était plus ou moins attendu. Et grosse nouvelle, enfin grosse annonce plus exactement, dimanche sur Sport 1, puisque Hans-Joachim Watzke, quand on l'interroge sur le sujet, dit Meunier réfléchit encore finalement à l'idée de finir la saison avec le PSG, notamment jouer la Ligue des Champions, avec ce que ça implique donc en termes d'accords contractuels à trouver. Sachant que 10 jours avant, je crois, c'était France Bleu qui avait sorti l'info, qui avait vite été confirmée, je ne sais plus par qui, je crois que c'était Gaulle, qui avait dit qu'en gros, Dortmund avait demandé un prêt payant de 2 mois au club, enfin au PSG donc, qui avait été refusé. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Camenier? Et puis finalement, aujourd'hui, donc côté PSG, il y a eu la réponse par voie de presse, à savoir que il y aura probablement pas de retour, que c'est trop compliqué, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette histoire de contrat, de prêt, de retour? Bonne idée, mauvaise idée? Est-ce que c'est une conséquence logique de ces soucis de contrat? Est-ce que c'est un problème de compréhension entre toutes les parties? Qui veut se lancer un peu sur ce feuilleton Meunier de bas niveau, j'ai envie de dire, non pas par insulte envers le joueur, mais parce que c'est un peu le bordel entre clubs. Oui, Omar.
Non, mais enfin, ça suffit, quoi. Meunier n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain, c'est un joueur de Dortmund. Enfin, il nous rendrait pas service à imaginer qu'il puisse faire un espèce de The Last Dance en revenant pour 2 mois et pour participer à la Ligue des Champions. Enfin, voilà, moi je vois aucune raison, même sportive, même quantitative à son poste, qui ferait qu'on puisse se dire que récupérer Meunier serait une bonne idée et serait un service pour le club. Enfin, c'est une décision qu'il aurait pu prendre peut-être en amont de son transfert. Et j'ai du mal à y voir autre chose qu'une espèce de communication qui servirait à ce rafraîchissant Thomas Meunier pour se faire bien paraître auprès de supporters ou de médias bien pensants. Sportivement, pour moi, ça s'explique pas. La page est tournée. Il faut passer à autre chose. Je connais pas la date de la reprise de la Bundesliga, mais je pense que sa prochaine échéance, c'est celle-ci. Et en plus, sous quelles conditions pourrait se faire un retour comme celui-ci? Enfin, ça, pour moi, ça, ni au niveau du management, ni sportivement, j'y vois aucune bonne raison de ne serait-ce que d'y songer. Et après, au-delà de ça, moi, je suis ravi qu'on ait tourné la page Meunier, parce qu'il aura au final bien plus fait parler de lui médiatiquement que sportivement depuis au moins 24 mois. On est bien loin des promesses estivales du Cafou belge, celui qui était surnommé ainsi.
Par un des joyeux de riz du podcast, d'ailleurs.
Tout à fait. Et voilà, je retiens plus ses errements défensifs et le couloir droit mal fermé plutôt que les qualités de contre-attaquant qu'on nous avait promises et qu'il a au final très peu apporté. Donc, absolument pas favorable à ce retour, et j'espère que le board et le staff du PSG n'y a jamais songé.
Alors, sur le live, on me dit un truc qui est très vrai, c'est que Dortmund a tout intérêt à faire jouer Meunier au PSG, parce que sinon il n'aura pas joué depuis 6 mois à la reprise de la Bundesliga. Effectivement.
C'est pas notre problème.
Oui, non, non, mais est-ce que c'est pas aussi une façon pour Dortmund de forcer la main du PSG? Parce qu'en fait, moi, quand je lis la déclaration, en fait, je vois... Bon, faut connaître un peu le personnage Watzke, qui est... on dira une sorte de, peut-être pas de Olas allemand, mais pas loin de là, qui a souvent fait des déclarations un peu sorties nulle part par moment. Enfin, vous avez pu le voir au moment de PSG Dortmund et Dortmund PSG, il y a eu des trucs. Bon, voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que il y a eu donc possiblement des discussions, je pense, réelles pour prolonger le contrat de Meunier au PSG de 2 mois, sachant que lui, il avait déjà signé avec Dortmund, dans le sens où au 1er juillet, lui, il faisait plus partie des joueurs libres. Il n'était pas dans le cas Thiago Silva, Rico, Choupo-Moting, qui n'ont rien signé, eux. Il était plutôt dans le cas d'Edinson Cavani, qui, lui, a préféré ne pas prendre le risque, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, Watzke a utilisé ce qui s'est passé il y a 15 jours pour, entre guillemets, mettre la pression au PSG, de type le joueur hésite, c'est peut-être à vous de le faire bouger, quoi, en fait. Et donc, indirectement, c'est donc au PSG de faire revenir le joueur, donc de trouver un accord financier avec Dortmund, parce que Dortmund ne va pas prêter gratos un joueur alors qu'il y a quand même des risques de blessures et tout ça. Et en plus, à ce moment-là, c'est au PSG d'assumer le salaire de Meunier. Et pour Dortmund, qui a proposé un très bon salaire à Meunier pour le faire signer, pour Meunier, c'est eux pour eux, ils ne payent pas de transfert, donc ils n'ont plus en ligne un gros salaire. Ça te fait une économie de 2 mois sur un gros salaire au final. Donc moi, je considère la sortie de Watzke comme un coup de bluff pour décider le PSG et, entre guillemets, leur forcer la main. Après, je pense que le PSG, ils n'ont pas envie de mettre de l'argent pour Meunier. Ils n'ont pas envie non plus de le payer deux fois plus que ce qu'il l'aurait payé s'il avait prolongé comme les autres, comme Silva, Rico et Choupeau, à savoir sur son salaire parisien. Mais je comprends Meunier, on te propose deux fois plus, évidemment que tu signes, enfin deux fois plus, peut-être même plus que deux fois plus, puisque visiblement Dortmund a quand même mis un gros chèque. Et ce quelque part, je comprends un peu le positionnement de toutes les parties, mais on se retrouve en fait dans un... C'est vraiment Watzke qui a foutu sa merde, pour dire clairement les choses, et qui aujourd'hui... met un peu plus encore les supporters du PSG contre Meunier, alors qu'il y a beaucoup plus de, comme Omar, de type « Bon, allez, c'est bon, c'est fini, terminé, bonsoir, au revoir, monsieur », qu'autre chose, quoi. Je sais pas, Simon ou Mathieu, ce que vous pensez de cette affaire.
Personnellement, j'ai trouvé cette rumeur, tout à fait obscène. Il est hors de question qu'un joueur qui est parti, qui s'est engagé déjà avec un autre club, qui a fait ses adieux, qui part pas forcément en bon terme ou sur des performances de crack, est hors de question de devoir renégocier avec son club que tu viens d'éliminer en Champions League et qui te ferait casquer et en plus te ferait payer un salaire bien plus élevé pour le faire jouer une poignée de matchs alors qu'on n'a même pas besoin de lui. La Ligue des Champions, à un moment donné, c'est pas un pot de départ, c'est une compétition sérieuse. Et j'imagine que... Enfin, j'ose espérer que le club ne pense pas avoir des gens comme lui dans le groupe au moment d'aborder la compétition. C'est bon, c'est fini. On peut passer à autre chose. Merci pour rien et à bientôt.
Merci pour rien. T'es dur quand même, Simon. Bon, voilà. Quoi.
Attends, je vais pas dire surtout merci après avoir à Ferral qui a pas réussi un centre par match depuis 3 ans quand même.
Ah bah, tu crois que Kurzawa, il en a réussi combien depuis 3 ans des centres, Simon?
Il s'est pas engagé avec un autre club, lui. Normal, il était pas numéro 1 en plus.
Ouais, puis je pense qu'il avait aussi moins
de pistes. Il a du sang polonais aussi.
Ouais, voilà, on y vient, Omar, tu as raison. Non, mais c'est, on me dit, ouais, Meunier, Kurzawa. Mais la différence, c'est que Meunier a quand même beaucoup plus de clubs qu'il le voulait que Kurzawa. Faut quand même lui reconnaître ça, quoi. Meunier, il a choisi.
D'après Dev Apadou, le représentant officiel de Levin Kurzawa, il avait Chelsea, Arsenal, la Juve et l'Atlético Madrid sur lui, Kurzawa.
Ouais, mais bon, bizarrement, les offres, celui qui a signé un contrat au 1er juillet, c'est pas Kurzawa. Hein. C'est, enfin, si, il a signé, mais tu m'as compris, quoi. C'est
ouais,
quand même...
non, c'est la communication de.
Et c'est normal que l'agence de représentant de joueurs vende des contacts et tout. Après, des contacts, c'est bien. Au bout d'un moment, il faut envoyer les offres. Et là, celui qui a l'offre ferme et qui a signé un très gros deal, c'est Meunier. C'est pas Kurzawa. Faut dire la vérité.
Peut-être que le PSG a dégainé plus vite que l'Atlético, Chelsea et d'autres. Si la concurrence était si rude, peut-être que rationnellement, le PSG s'est dit qu'il faisait un gros coup du coup en gardant Kurzawa. C'est possible. C'est un angle auquel j'avais pas pensé.
Oh là là. T'es infernal ce soir. On dirait c'est le retour de Simon qui te transcende. Mathieu, ouais, sur l'aspect le cas Meunier, donc en général, toi tu rejoins Simon et Omar. Est-ce que tu penses que ça aurait été une mauvaise idée de le faire revenir par exemple?
Oui, évidemment. Enfin, la question se pose même pas et je pense qu'elle s'est même pas posée pour le club. Donc, je crois que c'est Bruno Salomon qui avait sorti l'info en premier il y a quelques jours, quelques semaines, enfin 10 jours. Non, le club y a visiblement à refuser. C'est des conditions qui sont évidemment pas favorables au club et qui reviendraient vraiment à perdre la face dans l'affaire. Donc non, il vaut mieux passer à autre chose.
Bah, moi j'avoue que j'ai toujours un peu des doutes sur la quantité. Je ne dirais pas non quand t'as un joueur de plus. Donc je suis pas aussi dur que vous.
Un joueur de plus, mais dans quel état mental, avec peut-être la peur de se blesser, de rater aussi la préparation avec sa future équipe. Un joueur que tu pour lequel tu payes un prépayant, tu vas aussi payer le salaire que lui offre Dortmund, vu que Dortmund ne voudra pas prendre en charge le salaire. Enfin, non, c'est des conditions qui rendent impossible et qui est rédhibitoire un éventuel retour de Meunier, c'est bon.
Bon, bah écoutez, Monsieur Thomas Meunier, il faut partir. C'est terminé. Merci pour les 4 ans. Au revoir.
Signez les tocards des réseaux.
Les fameux tocards des réseaux. Non, mais en fait, c'est ça. Je crois que c'est ça qui m'a le plus surpris dans la déclaration de Watzke, c'est que son propre joueur fait quand même ses adieux au club. Il pose avec le nouveau maillot et lui, il te sort ça 3 jours après. T'es là, mais c'est quoi ça? Enfin, c'est Watzke, quoi. Mais bon. Ça fait quand même 10 ans qu'il est à la tête de Dortmund, qu'il fait des trucs vraiment pas possibles. Mais c'était vraiment, je trouve qu'en termes de timing, c'est une des sorties les plus improbables qu'il ait faites. Et Dieu sait qu'il en a fait.
Tôt ou tard, Philo, tôt ou tard.
Ouais, tôt ou tard, faut vous mettre à l'allemand. Terminé, bonsoir. On nous demande, est-ce qu'on croit une volte-face pour Cavani? Non, je pense que Cavani, Cavani, Silva, Rico, Choupo, tout ça, ça bougera plus aujourd'hui. Cavani, ça paraît vraiment trop tard. Et puis, il a même pas fait autant les autres. Enfin, Meunier était passé vendredi, il aurait éventuellement pu faire le test PCR, tout ça, mais là, ça fait une semaine que ça a repris maintenant. Est-ce qu'il est rentré en France, on ne sait même pas. Non, faut allez, voilà, c'est terminé. C'était soit il était là, et ça pouvait être fait, soit c'est pas là, et il faut passer à autre chose. Cavani, là, il est plus en train de négocier son futur contrat avec la Roma, qui est le club le plus enclin à lui filer ce qu'il veut, à savoir 3 ans de contrat et un très bon salaire, qu'autre chose, quoi. Faut avancer, quoi. Et on nous demande des news pour Areola et son salaire XXL. Bah, Areola, il est comme Sergio Rico au PSG, il a prolongé son prêt jusqu'à la fin août, normalement. En tout cas, c'est ce qui était annoncé. Faudra aller vérifier, j'avoue. Peut-être que j'irai faire le tour demain pour Culture sur le site. Mais voilà où on en est. Il n'y a pas de rumeur de départ aujourd'hui. On nous dit Thiago, ça peut être la seule incertitude. Mais lui-même n'y croit pas. Ça paraît quand même assez mal parti. Sachant que le PSG fait aussi un choix de l'économie pour le poste de défenseur gauche avec Kurzawa. Est-ce que vous pensez que le PSG serait capable de revenir sur ses pas pour Thiago Silva, Mathieu?
Non, c'est pas la même chose de prolonger un joueur qui était à 3 millions bruts qu'un joueur qui était à 17 millions bruts comme Thiago Silva. C'est des ordres de grandeur qui sont pas du tout les mêmes. Et aujourd'hui, prolonger à Thiago Silva, même avec un salaire réduit, ça te coûte entre guillemets une recrue à 40-50 millions d'euros, quoi. C'est le prix que coûte un Thiago Silva par an avec son salaire qui est démesuré, même avec une prolongation qui serait à un tarif moindre. Honnêtement, je pense que le PSG, si tu pars du principe qu'on a prolongé Kurzawa pour des raisons économiques, alors je vois pas vraiment les raisons de se passer du bol d'air que représente la non-reconduction de Thiago Silva sur ce plan-là.
Oui, bol d'air économique, parce que
financier, bien sûr.
Voilà.
Non, sportif, évidemment. C'est le joueur le plus méritant entre guillemets pour une prolongation, Thiago Silva. Mais c'est aussi le joueur dans la situation, dans le salaire, la rendait la plus difficile.
On nous dit il va nous faire une paillette. Ben non, Thiago Silva a déjà soulevé un trophée, mon ami. Ce n'est pas possible. Ensuite, on nous parle de Hakimi. Hakimi va signer à l'Inter Milan contre 40 millions d'euros, plus 5 millions de bonus, plus de pattes de clause de rachat. Voilà, Hakimi au PSG, c'est terminé pour l'instant. Prolongé sur un an avec le départ de Kwasi. Non, mais même aujourd'hui, Thiago Silva, enfin le départ de Kwasi, c'est des montants qui sont ridicules par rapport au salaire à assumer de Thiago Silva. Tiens, question qu'on nous pose, est-ce que pour vous la prolongation de Kurzawa enterre la rumeur Hernandez? Qui veut en parler? Simon, Omar? Oui, Simon?
Non, ça enterre aucune rumeur. Il se trouve que latéral PSG.
Bah, TLS quand même.
Oui, non. Celle-là, oui, sans aucun doute. Mais enfin, il se trouve quand même qu'on a un numéro 1 au poste qui n'a toujours pas prolongé à un an de la fin de son contrat. Et je reste persuadé personnellement, j'ai pas d'informations ou d'écho en particulier, hein, mais j'imagine qu'il pourrait être placé sur la liste des transferts si on ne trouve pas un accord très prochainement.
Tu parles de
Bernat,
donc.
Je parle de Bernat. Je vois mal le PSG vouloir perdre une fois de plus un joueur en fin de contrat qui lui aussi était un numéro 1 à son poste. Sachant que certes, il t'a pas coûté énormément d'argent, mais si tu te mets dans la perspective de devoir recruter un titulaire au poste en perdant Bernat, déjà ça coûterait très très cher. Et surtout, ça se trouve pas si facilement que ça, les bons latéraux. Donc si Bernat partait cet été, je pense que le PSG recruterait un latéral de type Tagliafico ou Hernandez, oui. C'est pas impossible.
Après, c'est pas tout à fait le même prix, il y en a un qui vaut 3 fois plus cher que l'autre quand même.
Non, mais il y a 2 Hernandez, tu sais.
Ouais, mais même, il y en a un qui vaut 2 fois plus cher que l'autre, alors. Parce que Lucas est estimé à 80 par son club et Théo à 50 par le sien, donc voilà. On nous dit Serginho, Dest, mais alors, je vais vous faire un petit point sur le dossier. En gros, aujourd'hui, il y a 3 clubs qui reviennent souvent pour le jeune latéral droit de l'Ajax Amsterdam, à savoir le Bayern, qui est globalement le club qui a les moyens de se le payer et qui cherche un arrière-droit, mais le Bayern, pour l'instant, ne souhaite proposer à l'Ajax qu'un prêt avec option d'achat. Autant dire que ça ne plaît ni à l'Ajax ni aux joueurs. Le Barça, qui a peint un rond, qui se retrouve à faire des échanges pas possibles pour équilibrer les comptes. Et le PSG, mais le PSG n'a visiblement pris que des renseignements sur le joueur. Donc aujourd'hui, Serginho Dest est très loin d'être parti de l'Ajax. Et même si lui, visiblement, il veut partir, l'entraîneur de l'Ajax, Ten Hag, a fait une conférence de presse aujourd'hui. Il y a 3 joueurs qui ont un bon de sortie à l'Ajax cet été. Le gardien André Onana, qui est annoncé à Chelsea avec insistance. Le milieu de terrain Donny van de Beek, qui est pareil annoncé au Real ou à United de temps en temps. Et enfin, donc, Tagliafico qui annonçait entre Chelsea, il a été annoncé un peu à Paris, je sais plus, il y avait un autre club où il avait été annoncé, mais bref. Voilà en gros les trois joueurs qui ont un bon de sortie côté Ajax. Et Dest n'en fait pas partie, même si, c'est un joueur évidemment très intéressant. Voilà. On nous demande si on a des échos sur les tests physiques. Bah, Omar, tu veux commenter les tests physiques ou pas?
Je peux. J'ai eu des échos en plus sur le coup.
Vas-y, je t'en prie.
tu veux le nom des deux meilleurs élèves sans critiquer personne.
Est-ce d'ailleurs qu'on peut deviner? On fait un petit jeu.
Bah, vas-y, je te laisse. C'est assez évident pour le coup.
C'est assez évident. Bah, le club a sous-entendu que c'était Gueye et Dagba.
Ouais, c'est bien.
Au test d'endurance, en tout cas.
À la VMA, c'est les deux meilleurs. Mmh. Et le dernier?
Bah, c'est forcément un gardien.
Non, même pas.
Pense que c'est un capitaine qui fête son anniversaire.
Je pense que c'est son anniversaire.
C'est même pas...
En même temps, je veux pas être méchant, mais le club a un peu vendu la mèche aussi quand tu vois la vidéo où tu passes de Gueye au capitaine argentin dont on vient de citer le nom sans le dire, qui peine sur son tapis de course à pied qu'on peut plus quoi.
Le tapis avait des roulettes pour son PSVM.
Voilà, le pauvre. Bon, tiens, on nous demande pourquoi le PSG ne se lance pas sur la piste de André Onana. Bah, parce que c'est un joueur qui vaut 25-30 millions d'euros facile et que le PSG a déjà un très très bon titulaire. Donc, le PSG a d'autres priorités aujourd'hui qu'acheter un gardien à ce prix-là, tout simplement. Quoi. Mais ça ne change pas la qualité d'André Onana, qui pour le coup est peut-être un des meilleurs gardiens sur le marché cet été. On nous demande si Icardi va mieux. Bah écoutez, il a l'air content d'être revenu à l'entraînement. Et on nous dit, est-ce que le Rico pourrait être acheté par le PSG après renégociation avec Séville? Alors ça, en Espagne, il y a plusieurs fois des rumeurs qui ont dit qu'il y aurait peut-être renégociation de l'option d'achat. Mais sachant que l'option d'achat, elle est de 10 millions. Alors certes, Séville veut absolument se débarrasser de Sergio Rico parce qu'il a signé un contrat avec un très bon salaire à l'époque où il était à son meilleur niveau à Séville. Mais de là, le bazarder contre une petite somme parce que il faut le vendre, c'est la dernière année pour le vendre, voilà, je ne suis pas sûr. Visiblement, le Galatasaray le veut parce que Muslera, l'excellent gardien Fernando Muslera, même s'il est plus tout jeune, s'est blessé pour 6 mois. À voir. Aujourd'hui, honnêtement, le poste de second gardien, je ne suis pas sûr que ce soit une priorité du PSG. On a parlé aussi de faire monter Marcin Bulka, qui est le numéro 3 en numéro 2. Donc voilà, où on en est, c'est assez flou. La rumeur Timothy Gastagne, bah, la rumeur, le joueur l'a dit lui-même, c'est qu'il y a un intérêt, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup plus, c'est que lui, il voudrait bien. Après, Timothy Gastagne, on en parle depuis des mois, c'est comme Marusic à la Lazio. C'est un joueur qui a fait une excellente saison l'an passé, enfin plus Gastagne que Marusic d'ailleurs, et qui aujourd'hui se retrouve remplaçant dans un club qui n'est pas non plus un club de très 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 haut niveau, malgré tout le respect que j'ai pour l'Atalanta qui fait une excellente saison. Je ne sais pas Mathieu ou Omar, ou même Simon, je ne sais pas si qui a regardé l'Atalanta, mais Castagne, vous voulez en parler ou pas? À part le fait qu'il a le meilleur nom d'Europe.
Oui, on en a parlé déjà il y a... Non, mais on a déjà parlé il y a plusieurs semaines de Castagne, du profil, etc. Mais honnêtement, c'est vraiment un latéral de défense à 5, quoi, donc... Je ne sais pas si c'est le profil adéquat et qu'on recherche. C'est un joueur que l'Atalanta va vouloir vendre parce que, comme tu l'as dit, Philo, c'est un joueur qui a perdu sa place de titulaire. Donc,
qui n'a plus qu'un contrat aussi. C'est le moment ou jamais pour le vendre, Castagne. Il veut partir, mais il est aussi clairement sur le marché. Quoi. Donc, voilà. Mais par contre, il faut le dire, l'an dernier, il avait fait une très bonne saison et en équipe de Belgique, il avait commencé à sérieusement bousculer la place de Meunier. Hein, vraiment. Donc, bon, c'est quand même pas un mauvais joueur, faut le dire. Quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas non plus. C'est plus un Meunier bis qu'autre chose. Quoi. À part qu'il est beaucoup plus jeune, puisqu'il a 4 ans de moins.
Et il peut jouer à gauche aussi.
Et il peut jouer à gauche, ce qui est un atout, même si maintenant on a prolongé l'ami Kurzawa. On nous demande si Kimpembe a fait 18 au test de Cooper ou pas, Omar. Tu as le chiffre de Kimpembe ou pas? Je sais pas, à vrai dire. Non? Bon.
Non, j'ai pas le chiffre de Kimpembe.
Bon. En tout cas, c'est vrai que les vidéos étaient plutôt marrantes dans tous les cas. On nous demande par rapport au fair play financier, est-ce que le club doit faire des deals avant le 30 juin? Oh, bah, visiblement pas, parce que sinon ça serait peut-être un peu plus chaud que ça, vu qu'on est déjà le 29, qu'il n'y a quand même aucune rumeur de départ à cet instant. Oui Mathieu, tu veux rajouter quelque chose?
Non, c'est ça, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que normalement tu peux dire que les clubs n'ont pas forcément besoin de vendre avant le 30 parce que les deux saisons ont été fusionnées par l'UEFA dans le cadre du fair play financier. Donc globalement, ce que tu peux vendre en juin, tu peux le vendre en juillet, ça change pas la donne. Et pourtant, aujourd'hui, on a vu bah, la Juve et le Barça conclure un échange mirobolant entre Arthur et Pjanic. On a vu aussi la Juve vendre trois ou quatre joueurs de sa Primavera, donc de son équipe, de ses équipes de jeunes. Pareil sur des un à Montpellier, un autre au FC Bâle, mais pareil pour multiplier les plus-values avant le 30 juin. Donc je sais pas exactement ce qu'a décidé l'UEFA, quelles sont les implications séparées pour chaque club, mais visiblement le PSG était pas dans la nécessité de faire quelque chose avant le 30.
Voilà. On nous demande, est-ce que tu peux réexpliquer rapidement pourquoi l'échange, la magouille Pjanic-Arthur et pourquoi le PSG ne se livre pas à ce genre de pratique?
Déjà, c'est faux sur le dernier point, vu qu'on a voulu faire la même chose avec la Juve, justement, en janvier.
Voilà.
Pour entre Kurzawa et Deschilio.
Voilà, vas-y, je te laisse réexpliquer vite fait, si tu veux, en fait, la chose.
C'est très simple, c'est qu'un joueur, quand tu l'achètes pour son prix d'achat, ben, tu l'amortis sur la durée de son contrat dans les comptes du club. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre l'exemple de Kurzawa, qu'on avait acheté 25 millions en 2015. Bah, sur un contrat de 5 ans, bah, chaque année il va perdre 5 millions d'euros de valeur dans les comptes du club, il s'amortit de 5 millions et donc quand tu le revends si tu le revendais l'an dernier, l'été dernier après 4 ans de contrat, donc il ne valait plus que 5 millions dans les comptes du club, et bah, tu faisais une plus-value qui était de l'ordre de son montant de transfert moins le montant qui était encore dans les comptes. Donc tu le vendais 20 millions, tu faisais 20 moins 5 de plus-value et ça faisait 15. Et si tu le vendais en janvier à la Juve, donc là où il ne valait plus que 2,5 millions dans les comptes, vu qu'il était à 6 mois de la fin de son contrat, on parlait à ce moment-là d'un prix de départ de 25 millions, il me semble, entre Deschilio et lui.
Ouais, c'est ça.
Et ben,
Il réfléchissait entre 20 et 25, jusqu'à quel montant ils allaient escroquer le deal, quoi.
Bah, tu faisais 25 moins 2,5 de plus-value, donc 22,5 de plus-value sur Kurzawa, sur cet exercice 2019-2020. Et le principe, c'est que comme on aurait pris Deschilio en même temps dans l'échange, on l'aurait pris pour 25 millions, mais on n'aurait pas eu 25 millions directement dans les comptes 2019-2020. On aurait eu 25 millions divisé par 4,5 pour sa valeur annuelle. Donc c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça aussi que la Juve et le Barça se sont arrangés avec Arthur et Pjanic.
Voilà.
Et aujourd'hui, donc voilà.
En gros, on nous demande, Omar, est-ce que tu sais si Icardi est toujours abonné au 129? Je ne sais pas. Est-ce que tu veux répondre à ça ou est-ce que Simon veut commenter le nombre de Twix de notre ami argentin? Non.
Sandwicherie très fameuse de Saint-Denis.
Exactement. Extraordinaire réputation dans toute l'Île-de-France.
On les embrasse.
On nous demande ensuite sur les pistes pour Thiago Silva. Alors, lui, visiblement, il souhaite plutôt aller en Angleterre, d'après, je crois que c'était Georges Nicolas de Goal ou Bruno Andrade, enfin, un des deux journalistes brésiliens assez connus de Yahoo et de Goal, je ne sais plus, enfin bref, une source plutôt qualitative en général, qui avait parlé de l'Angleterre. Il y a aussi la piste de la Fiorentina, parce que la Fiorentina a quand même publiquement déclaré qu'elle était intéressée par le joueur, même s'il a visiblement été très calmé par... les demandes salariales. Et on a le Milan AC qui n'a pas encore fait de pas en avant vers Thiago Silva. En Angleterre, je crois qu'il n'y a aucun nom de club. Si, Everton avec Ancelotti, forcément, qui est revenu. Mais voilà. Tiens, un petit débat, effectivement, un peu hors mercato, qui est très sympa. Ah non, promis, j'avais promis que je répondrais à cette question sur les premiers contrats pro qui ont été signés aujourd'hui sur Kenny Naguera et Teddy Allo. Pour moi, il y a deux cas, mais alors très, 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 très différents. Il y a d'un côté Kenny Naguera, qui est un attaquant ailier, un joueur de vitesse, qui a fait une très bonne saison, qui n'était pas forcément super annoncé au départ, et qui, pour le coup, qui a un peu explosé cette année, qui était en fin de contrat aspirant. C'est un joueur qui est déjà trop demandé, notamment en Ligue 1, à l'étranger. Je crois qu'il y avait plusieurs clubs anglais, notamment, qui le voulaient. On ne pouvait pas lui proposer un contrat stagiaire, parce que c'était pas assez intéressant pour lui. Donc le PSG se retrouve dans une situation où il n'a pas le choix, il veut verrouiller le joueur à moyen terme, donc il propose un contrat professionnel. Le joueur ne va pas intégrer le groupe professionnel tout de suite, il va continuer à se développer sur sa deuxième année U19, puisque là c'était sa première année U19, là il sera normalement l'attaquant de pointe titulaire de U19 en concurrence avec Labila, qui lui aussi est un très bon joueur, mais qui a un an, voire deux ans de moins, je sais plus, je crois que c'est un 2003 ou 2004, j'ai un doute, bref. Donc Naguera, c'est une promesse pour l'avenir parce que bah il comment dirais-je il est jeune, il doit se développer encore. Il n'est pas prêt pour le monde professionnel. Autant Kalimundo peut espérer jouer déjà Ligue 1, Ligue 2, peut-être bout de banc, PSG, enfin voilà, ce genre de profil. Autant Nagyerra, il a encore beaucoup plus à apprendre et c'est vraiment un joueur qui est en plein développement et qui apprendra plus peut-être en jouant toutes les semaines en U19 qu'à jouer une fois de temps en temps alors que Kalimundo est déjà prêt pour jouer à l'échelon du dessus, quoi, tout simplement. Il est plus mature, il est plus prêt. Voilà. Ensuite, Omar, tu veux commenter peut-être sur Nagyerra hein, ou tu le connais pas trop?
Non, je l'ai pas vu, j'ai pas vu assez.
Voilà. Mais globalement, c'est un profil qui, juste, au départ, quand Kalimundo est là, on le faisait jouer plutôt côté. Mais sinon, ça sera un joueur axial qui va se réaxer petit à petit. Un attaquant très moderne, qui n'a pas forcément beaucoup de jeux de haut but, mais qui va plutôt attaquer la profondeur. Vraiment un joueur. Un peu joueur moderne. Je peux pas vous dire beaucoup plus que ça, mais voilà. Oui, on a une équipe en National 3, c'est l'ancienne équipe amateur qui est montée tout simplement. Donc voilà, c'est pas la réserve, c'est l'équipe amateur qui a monté d'un cran. Ensuite, Teddy Allo, lui, c'est un arrière-gauche qui n'était pas titulaire cette saison. C'est un peu c'est une grosse surprise, même son contrat professionnel. Alors, c'est une surprise et une demi-surprise à la fois. C'est à savoir qu'il était franchement annoncé comme un excellent latéral un peu plus jeune. Et il a eu un peu de mal à confirmer. Au final, c'est surtout Larkech qui a joué à gauche, voire Pembele. Des fois, je crois que Pembele aussi jouait à gauche. Donc, c'est un peu une surprise, on ne va pas vous mentir. Est-ce qu'il a encore le temps de se développer largement, puisqu'il est, il a 17 ans ou 18 ans, lui aussi, c'est un 2002. Il a 3 ans donc, de contrat, je parle. Donc, pareil, il attend de se développer. Mais honnêtement, qu'il ait un contrat pro et que Larkech n'ait pas eu de proposition, même si Larkech avait visiblement fait comprendre qu'il voulait partir, par rapport au rendu sportif à cet instant, par rapport à la hiérarchie au poste à cet instant, c'est un peu une surprise. Après, lui aussi, il va avoir une deuxième année en U19. Il peut largement se développer et devenir un joueur qui compte. Mais c'est vrai que c'est peut-être le contrat pro de la génération 2002 le plus surprenant avec celui pour le jeune Jonathan Mutombo qui est pareil, est un latéral, mais de l'autre côté, côté droit. Je sais pas, Omar, si tu connais un peu plus Teddy Allo ou pas. Ou pareil, comme Nagyerra fait partie des jeunes que tu n'as pas pu voir jouer.
Quand j'ai vu moins de 5 fois, je dis rien en général. Donc...
Bon, voilà. Mais en gros, donc... À cet instant, c'est un peu une surprise, mais bon, pourquoi pas. Le PSG a des fois fait signer des contrats pros et des joueurs qui étaient un peu dont on a pu se demander à quoi ça allait servir, notamment quand on a fait signer pro Dagba, par exemple. Je ne vais pas vous mentir, je ne comprenais pas trop pourquoi. Et finalement, il s'est avéré qu'il s'est bien développé et qu'il a eu sa chance. Donc, on ne va pas le condamner trop vite. On m'a demandé aussi concernant est-ce qu'il y a des vraies pépites au centre de formation. Le PSG sort 9 contrats pros sur la génération 2002 et puis. Pépite, honnêtement, ça veut un peu tout et rien dire, parce que l'entourage, le développement personnel et tout ça, ça veut vraiment... ça dépend de tellement de choses, honnêtement, que... Voilà, on m'aurait dit, Onganda est peut-être un des plus grands talents sortis, des 5 plus grands talents sortis par le centre de formation. Aujourd'hui, il est entre la Roumanie et l'Italie, 2e division, donc bon... C'est pour ça que je dis que ça dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que Caïs Ruiz a intégré le groupe professionnel? Oui, il a repris avec les pros. Aujourd'hui, il était en entraînement avec les Verratti et tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'il va jouer avec les pros? Pas forcément, mais en tout cas, il voulait jouer avec les pros. Aujourd'hui, il a ça. Je sais que si le PSG reçoit une bonne offre, peut-être que ça sera... Probablement qu'elle sera acceptée. Ensuite, il faut voir qui va faire cette fameuse offre. Et voilà, quoi. On nous parle de Herrera sur la liste des transferts. Alors, la liste des transferts, c'est un truc de football manager. Après, est-ce que le joueur veut partir? Ça, c'est encore autre chose. Et visiblement, ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà. Quid de Dina Ebimbe? Alors ça, c'est effectivement un sujet d'actualité. C'est Eric Junior Dina Ebimbe, qui est donc un milieu relayeur de la génération 2000. Même génération que donc Adli, Gomez et Wea, notamment. Donc les trois qui sont partis depuis. Il a été prêté, en théorie, 2 ans au Havre. Et il s'avère que... Le Havre a annoncé cet après-midi qu'il a fait une saison comme titulaire en Ligue 2 en étant dans le 4-4-2 de Le Guen. Il jouait au départ soit milieu offensif droit, puis il est passé en cours de saison attaquant de soutien, alors qu'au départ c'est un 8, voire un 6. Sa dernière saison avec la réserve, il avait joué en 6, donc devant la défense. Il a fait une bonne, voire une très bonne saison. Il a quand même des gros clubs anglais. Il y a quand même Manchester United qui s'est penché sur lui, c'est pas une blague. United l'a vraiment suivi. Il a été annoncé que... Il ne joue pas au Havre, donc est-ce qu'il va revenir au PSG? Aujourd'hui, c'est vraiment une zone d'ombre. Est-ce qu'il pourrait intégrer la rotation? Peut-être. Je pense honnêtement qu'il va plutôt demander soit à partir, soit être reprêté quelque part pour avoir un vrai temps de jeu. Mais en tout cas, sa saison en Ligue 2 est une vraie réussite. Là, je viens de dire que Teddy Allo n'était pas vraiment un contrat pro évident. À l'époque, j'aurais peut-être dit pareil de Dina Ebimbe, même s'il avait quand même déjà bien progressé avec la réserve et l'U19. Donc, à voir. Ça fait partie de ces joueurs qui sont peut-être sur un fil, mais qui finalement vont soit exploser, soit faire une carrière un peu plus modeste. Concernant les matchs amicaux, le premier, visiblement celui contre le U19 qui était prévu entre le 7 et le 9 juillet, va être annulé. Enfin, il n'aura pas lieu puisque ça a visiblement l'air de capoter. Le premier match amical sera en théorie contre le Havre le dimanche 12 juillet, 19h. Beansport, les excellents confrères de Paris-Normandie ont annoncé une diffusion sur Beans, ce qui est assez probable. On verra. Et après, il faudra voir le Celtic. Les Écossais avaient l'air de dire que ça va se faire. Ensuite, on jouera peut-être Anderlecht, si on a le temps. Et ensuite, on verra, parce que la finale, la Coupe de la Ligue, puis la Coupe de France, Coupe de la France, puis Coupe de la Ligue vont arriver assez vite. Voilà. On nous parle de El Shaddai. Est-ce qu'il pourrait vraiment aller au Bayern alors qu'il n'a que 15 ans? Je ne suis pas sûr que le Bayern s'amuse à faire des transferts de mineurs comme le Barça et City ont pu le faire à une époque où Chelsea, ça leur a coûté cher. Donc voilà. Ah oui, une question qu'on m'a posée. Qu'est-ce que vous pensez de l'éventuel rachat de l'OM par un gros investisseur du Moyen-Orient ou de la Méditerranée? Mathieu, Omar ou Simon, parce que moi j'ai beaucoup parlé, je vous laisse vous exprimer un peu, vous aussi. Qui veut en parler de cet éventuel revival de la rivalité via les dollars du golf? Oui, Omar.
Moi, je leur souhaite le dépôt de bilan.
Bon, au moins c'est clair. La concurrence, non, ça t'intéresse pas, toi?
Absolument pas.
Voilà, bon, comme ça au moins c'est clair. Mathieu ou Simon, sur une éventuelle nouvelle concurrence de l'OM, le revival de la rivalité, non, ça t'intéresse pas, Simon?
Alors, ça m'intéresse pas déjà, et surtout, j'y crois pas une seconde. Donc, voilà un peu mon avis sur la question.
D'accord, bah dis donc. Et toi, Mathieu, est-ce que tu vois un intérêt à revoir un OM racheté et de nouveau un peu plus à même de concurrencer le PSG ou pas du tout?
Non, moi je suis un peu comme vous. Je préfère que l'OM, quand il y a des bruits de chèvres au stade et sur la musique de Benny Hill, que les tribunes sifflent leurs propres joueurs.
D'accord, bon. Moi j'avoue, je suis un peu plus mesuré. Non pas que je me réjouisse qu'il soit puissant et en mesure de se battre pour le titre, mais est-ce que j'aimerais un adversaire au PSG un peu plus valeureux que l'Olympique Lyonnais à la sauce Rudy Garcia, Jean-Michel Aulas, quoi. Parce que bon, on voit bien qu'ils vont pas aller bien loin. Hein. Et donc pourquoi pas après l'OM, pas l'OM, bon. Franchement, le coup des Saoudiens, pas Saoudiens. J'avoue que le personnage Mourad Boudjelal me paraît être le méchant parfait à la tête de l'OM. Une grande gueule que je déteste. Donc, c'est exactement ce que j'espère voir nommé comme président. Comme ça, voilà, c'est parfait. Après, bon, de là à espérer qu'il soit racheté pour les voir puissants, bon, on va peut-être pas pousser non plus, quoi. C'est bien comme ça actuellement à faire n'importe quoi, à prendre des 4-0 en une mi-temps, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Un peu notre ressenti qui est donc pas très 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 positif. On nous dit Pape Gay, est-ce qu'il serait intéressant? Donc Pape Gay, c'est un joueur du Havre justement qui a été à deux doigts de signer en Angleterre, mais en fait pas en Angleterre. Je sais pas, Simon ou Omar, plutôt, parce que Mathieu, je me doute bien que la Ligue 2 ça l'intéresse pas. Omar ou Simon, vous avez un avis sur le fameux Pape Gay?
Bah, c'est un joueur qui a des grosses qualités pour le coup, des grosses qualités de puissance, qui est assez verticale et qui a une technique aussi assez propre. Après, j'ai un peu du mal à l'imaginer dans l'effectif du PSG. Je pense que le saut est un peu trop grand, mais c'est clair qu'il a des qualités très très adaptées pour jouer un rôle et exister en Ligue 1, mais peut-être dans un club, dans un club où il va avoir plus de temps pour s'installer. Tandis qu'au PSG, on va lui demander tout de suite d'avoir un niveau de performance très élevé. Mais en tout cas, pour le coup, c'est vraiment un joueur intéressant.
Très bien. Moi, j'avoue que je suis un peu comme toi. Mais c'est un bon joueur qui est un peu juste pour le PSG et qui surtout a l'air de s'être foutu dans un bordel en termes de contrat.
On ne comprend rien à cette histoire.
Ah, les magouilles dans lesquelles il s'est mis, sont... donne absolument pas envie de signer le joueur, honnêtement, quoi. Rien que pour le sac de nœuds que ça va être, faut surtout s'en éloigner, quoi. Après, il a fait n'importe quoi, j'espère qu'il assumera, quoi.
Après, pour qu'il plaise à Mathieu, tu peux dire que c'est un joueur qui peut être revendu rapidement en première ligue pour 25-30 millions à partir du moment où il aura fait 2-3 traversées très verticales du terrain sur 30 mètres.
Ah,
Donc
tout à
ça,
fait.
c'est juste pour dire un petit peu le genre
Non,
de
mais c'est pas
profil que j'ai.
forcément la Ligue 2, c'est pas forcément un championnat qu'il faut mépriser comme ça de premier abord, parce que Lyon, ils
Absolument
ont fait
pas.
leurs deux grosses affaires, dont Dembélé et Mendy, en partant de la Ligue 2, donc a priori. Hein.
Non, y a, ah
Et
non,
d'ailleurs,
il
ce...
y a des très bons joueurs en Ligue 2 et moi je suis complètement pour prêter certains de nos jeunes même en Ligue 2. La Ligue 2 est un championnat très formateur. De mémoire, dans le groupe qui a gagné la Coupe du Monde 2018, le groupe France, tu avais plus d'un tiers des joueurs qui avaient joué en Ligue 2 et moins, en étant donc au niveau professionnel, quoi. Donc il n'y a pas de honte à jouer en Ligue 2, au contraire, enfin, il y a des très grands joueurs qui ont joué en Ligue 2. Un mec comme Djorkaeff, il a joué en Ligue 2, par exemple. Et on parle d'un des plus grands attaquants français de l'histoire. S'il n'y a aucune honte à aller jouer en Ligue 2, hein, loin de là. Hein. Même Giroud, qui est quand même l'attaquant titulaire de l'équipe de France, a joué en Ligue 2 pendant un bon moment. Donc c'est vraiment un championnat formateur, faut pas le mépriser du tout. Hein. Mais c'est juste que là, aujourd'hui, le grand saut.
Surtout quand on voit la Liga en fait.
Ouais, voilà, oui. Il n'y a pas une énorme différence entre le haut de tableau Ligue 2 et le milieu de tableau Ligue 1.
Ah,
Non,
ça c'est
aucunement.
clair et net. Hein. Il y a des équipes qui sont pour le coup pratiquement interchangeables.
Oh bah, tu prends Lorient, je pense qu'ils dénoteront pas l'an prochain en Ligue
Bah,
1.
Lorient, le formidable Christophe Pélissier, bien entendu que enfin il trucide la moitié des effectifs de Ligue 1, sans
Ils viennent de
problème.
prolonger, Enzo le fait en plus, donc là,
Le
je
roi
peux vous dire qu'ils arrivent armés
Enzo
jusqu'aux dents.
le fait. Voilà. Et ils viennent de signer Stéphane Diarra aussi, qui est un joueur assez demandé. On nous dit, tiens, pour vous, qui de l'Allemagne, la France, l'Angleterre ou l'Italie serait la mieux préparée pour la Ligue des Champions? L'Espagne aussi, il faut quand même la citer. Mais je crois que c'est une question à laquelle on a plus ou moins déjà répondu la semaine dernière. Bah tiens, Simon, t'avais pas donné ton avis parce que tu étais en train d'être ivre pendant tes vacances. Bravo. Quel est pour toi enfin, d'où viennent les clubs qui seront les mieux préparés pour la Ligue des Champions finalement?
Je crois au pouvoir du travail de la cellule médicale à titre personnel. J'ai tendance à dire que l'Atalanta sera assez injouable, tout du moins du point de vue physique. Ils ont encore fait un match de maboule hier soir contre l'Udinese, qui eux aussi ont une cellule médicale tout à fait extraordinaire. C'est un peu l'avis que j'aurais. Après, toutes ces histoires de rythme, de préparation, de compétition, ça va définir certaines choses, mais je crois surtout que c'est la compétence que tu vas mettre dans ta préparation et la qualité avec laquelle tu vas préparer tes joueurs qui va compter plus que forcément des échéances de calendrier, de préparation. Ça, j'ai pas encore trop de certitude à ce sujet perso. Donc je pense que l'Atalanta, ils arrivent pas pour rigoler, l'Atlético non plus.
D'accord, donc tu nous mets l'Atlanta Team Sky et l'US Postal pour l'Atlético, c'est ça?
C'est un petit peu ça, ouais.
Très bien. Voilà, une réponse concernant la Ligue des Champions, tout ça. On nous demande est-ce qu'il y aura des supporters ou pas pour la Ligue des Champions au mois d'août. Honnêtement, aujourd'hui, on ne sait même pas vraiment si ça va se tenir à Lisbonne. Donc parler encore de supporters. L'UEFA, quand elle a statué sur le changement de formule, tout ça. Le seul point sur lequel elle n'a pas statué, elle a laissé la porte ouverte, c'est public ou pas public. Voilà, c'est le seul truc qu'on peut dire à cet instant d'un point de vue officiel. Mais c'est vrai que la situation à Lisbonne n'est pas très très bonne aujourd'hui. J'avais vu une autre question, parce que vous avez posé beaucoup de questions, c'est dur à suivre, je m'excuse, j'essaye d'en prendre le plus possible. Ah oui, tiens, on nous parle du projet niçois pour concurrencer le PSG. Qu'est-ce que vous avez pensé du. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet niçois un peu qui fait quand même quelques bons recrutements, qui a visiblement pas mal d'argent? Qui veut en parler? Omar, Simon, même Mathieu, si tu as suivi un peu. Oui, Omar?
Bah, pour le coup, c'est enfin, ce que fait Nice a l'air très cohérent. Il y a une vraie ligne directrice dans le recrutement, je trouve. C'est des jeunes à fort potentiel, issus de marchés qui sont pas forcément très exploités par les clubs de Ligue 1 et des bons joueurs de Ligue 2. Je pense à Claude Maurice quand je dis ça. Là, apparemment, ils vont faire Guiri, qui est un super, super attaquant. Donc, pour le coup, j'ai une vraie curiosité sur voir comment ça pourrait marcher. C'est un bon fit avec un entraîneur qui se développe d'année en année, qui a les idées claires et qui est plutôt prometteur. Donc, bien entendu, je parle de Patrick Vieira quand je dis ça. Donc, c'est plutôt un club qui structure bien et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Ils finissent cinquième cette année, à peu près,
Ouais,
c'est ça?
mais globalement, ils auraient pu finir 10e ou 12e à un match
Ouais.
près, quoi. Ils ont quand même eu beaucoup de mal à concrétiser leurs ambitions sur le terrain.
Bah après, l'effectif manque peut-être un peu d'encore un ou deux tauliers par ligne, peut-être qui gommeront lors de ce mercato, mais ça a l'air plutôt pas mal. Enfin, je vois ça de loin, bien entendu, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a du sens à ce qu'ils font et qu'ils sont pas en train de brûler les milliers d'euros qu'Ineos a mis sur la table en rachetant le club.
Très bien. Simon, t'as un avis ou pas du tout?
Ouais, j'ai suivi un petit peu. Et je vois plutôt d'un bon oeil le projet niçois, en fait. J'ai la sensation que c'est peut-être le seul projet en France avec l'ASM et l'OL, dans une certaine mesure en tout cas, qui fait pas uniquement des petits calculs à court terme d'achat-revente, de trading de joueurs, et qui a quand même des ambitions sportives assez claires, assez réelles. Alors certes, pour l'instant, ça manque un peu de réussite, ça manque peut-être aussi un petit peu de moelle dans l'effectif. Évidemment, un projet se fait pas en un jour, surtout avec des moyens qui sont pas... Par exemple, ceux du PSG quand le Qatar est arrivé. Mais j'ai bon espoir que d'ici 2-3 saisons, ce soit un vrai club compétitif et qui pourrait, par exemple, être le deuxième club de France ou le troisième derrière l'OL. Donc,
D'accord.
non, je suis assez enthousiasmé par leur projet et j'espère que ce sera mené à bien parce que, il faudrait un petit peu plus de niveau en Ligue 1 quand même.
D'accord, bah écoute, c'est bien. Moi, je suis content effectivement de voir qu'ils achètent des bons joueurs. Notamment, ils sont allés chercher Dolberg à l'étranger, qui est quand même un gros coup, hein, faut s'en rendre compte. Ils ont ramené quelques bons joueurs, ils sont allés chercher des joueurs de Ligue 2. Bon, voilà. J'attends une vraie montée en puissance de leur part sur les 2-3 prochaines années, mais j'ai vraiment peur que ce soit un projet trading. Façon le bon Monaco d'il y a 4-5 ans, quand ils arrivaient à être intelligents, à pas vendre 4-5 mecs d'un coup, mais genre t'en vends un bon par an, quoi. Et ce qui fait qu'en fait, t'as pas vraiment un concurrent au final, quoi. T'as un opposant les meilleures années, mais t'as pas un concurrent sur la durée, quoi. J'ai vraiment cette crainte de voir un Bayer Leverkusen à la française, quoi. Un truc, autant dire que pas de titre, mais une vague opposition une fois de temps en temps, mais qui te ramène pas un suspense et qui te pousse pas non plus trop dans tes retranchements. Et j'ai aussi un petit peu des doutes sur l'envergure de Patrick Vieira, que j'aurais peut-être pris un coach plus établi pour lancer ce projet aussi. Et globalement, quand je vois ce que les Niçois pensent de Patrick Vieira, ils sont pas toujours très très positifs sur son travail non plus. Donc je suis un peu dans l'attente concernant ce projet, parce que je suis pas sûr à 100% que ça soit vraiment ce qui est annoncé à cet instant. Je leur souhaite, hein, parce que je pense que la Ligue 1 a besoin de projets comme ça, de projets où les mecs se disent pas qu'ils vont revendre à la fin de l'année, quoi. Qu'ils soient en mesure de garder les joueurs 2-3 ans avant effectivement de faire une grosse vente à 40, 50 millions, quoi. Mais pas de revendre au bout d'un an pour gagner 4 millions sur le bilan comptable, quoi. Ça, c'est vraiment la négation, le niveau zéro, quoi. Deux questions rapides. Est-ce qu'on a une idée de quand sortiront les nouveaux maillots? Le maillot 1, le maillot 2, donc domicile extérieur, ça sort le 23 juillet en théorie. Voilà. Les 3, 4, les 2 de Jordan, ils sortiront pareil comme d'habitude en septembre au mieux. Le quatrième, peut-être même 2021 seulement. Quoique non, peut-être que les deux sortiront en même temps, parce que les paires de chaussures que je vous ai mises sur le site ces derniers jours là, elles sortiront à la rentrée en théorie. Donc je pense plutôt peut-être qu'ils sortiront les deux, à confirmer en tout cas. Et on nous demande, est-ce qu'il y a un réel intérêt de la part du club envers des joueurs de Ligue 1? Bah, la piste à Amari Traoré par exemple de Rennes, elle est réelle. Le nom de, comment il s'appelle, de Houssem Aouar est quand même régulièrement cité. Il y a quand même comme ça, il y a bah, dans le
Bon,
passé,
camarade.
qui ça?
Camarade de l'OM.
Ouais, bon, bah ça c'était bon. Voilà, on sait pas trop. Enfin, c'est en tout cas l'OM qui a fait fuiter ça. On a eu aussi, comment il s'appelle, Attal de Nice, même si aujourd'hui c'est pas une piste. Et puis Nice ne veut pas. Comment dire? Nice ne veut pas le vendre, tout simplement. Voilà, on est sur live, dauphin du PSG au mieux, concurrencé, pas pour aujourd'hui, etc., etc. Donc voilà. On nous demande est-ce qu'il y a du nouveau ou des informations sur Sergueï Milinkovic-Savic. Bah, franchement, même dans la presse italienne, il n'y a rien eu de nouveau depuis des semaines. Et ce qui fuite du dossier, ce qui laisse entendre aussi, c'est que bah, tout simplement, la Lazio attend de savoir sa place en fin de saison, quoi. Parce que Ligue des Champions, pas Ligue des Champions, deuxième, troisième, quatrième, c'est beaucoup plus compliqué que. Enfin, il faut. Aujourd'hui, les clubs ne savent pas exactement de combien ils vont pouvoir disposer, qu'est-ce qu'ils ont dans les caisses, combien ils vont devoir au contraire vendre et tout ça. Donc, c'est. Aujourd'hui, les clubs sont dans le flou parce que les saisons ne sont pas finies, quoi. Ce que disait Leonardo, c'est qu'on est en juin, mais on est en mars. Bah, maintenant, on va bientôt être en juillet, ça correspond à avril, quoi. Et en avril et en mai, il n'y a pas beaucoup de transferts, quoi. Donc, voilà. Et on nous dit, Xavi Simon s'est entraîné avec l'équipe première aujourd'hui. Non, pas du tout, il était avec les U19 à la reprise. Donc voilà, et ça se voit, il n'a pas les équipements de l'équipe première, il a les équipements de la réserve, enfin des jeunes. Ensuite, en gros, qui pour remplacer Thiago cet été ? Oh là là, on en a fait un podcast complet, donc c'est un peu plus compliqué que juste une question. On nous dit, la qualité de l'équipe médicale en Italie égale le bon dopage. Mathieu, veux-tu assumer l'état de la Serie A ou pas ? Ou non, pas de souci. Tu valides le fait que l'Italie est spécialisée dans le dopage de haut niveau ?
Bah non, ça dépend des clubs. Si tu regardes la Juve, c'est un club sur les dernières années qui a plus de blessés que le PSG. Donc j'imagine que si tu fais le préjugé sur la Juve, tu dois le faire aussi sur Paris. Alors, mais donc non, ça dépend vraiment des clubs. Par contre, oui, c'est clair, quoi, sur l'Atalanta, tu peux te poser des questions.
Est-ce que tu peux présenter le préparateur physique miracle de l'Atalanta pour ceux qui nous ont on rigole de l'Atalanta.
Bah, parce qu'ils ont un préparateur physique qui s'appelle Jens Bangsbo, qui est danois et qui travaillait à la Juve à la fin des années 90, donc la fameuse époque. Et si tu veux, si vous vous souvenez de Ravanelli qui va à Ajaccio, il prend comme adjoint préparateur physique Gianpiero Ventrone, qui était le préparateur physique en chef de la Juve à cette époque-là. Donc avec toutes les polémiques qu'il y a eu sur ses méthodes, etc., bah, Bangsbo, c'était l'un de ses collaborateurs à l'époque. Donc voilà, c'est juste pour l'anecdote, mais c'est vrai que c'est un peu une blague récurrente qu'il y a en Italie ces derniers mois, à constater qu'à l'Atalanta il y a des joueurs complètement inconnus qui ont rien fait dans les clubs précédents dans lesquels ils jouaient, se mettent d'un coup à devenir des stars du championnat, comme Mario Pasalic par exemple, qui faisait même pas les feuilles de match à Monaco. Donc oui, voir aussi cette équipe courir beaucoup plus que les autres, mais bon, c'est un peu une blague qui tourne, c'est depuis un moment en Italie, mais sans que ce soit prouvé par des faits ou par des enquêtes ou quoi que ce soit. C'est juste vraiment pour...
Oui, c'est une blague récurrente. Quoi.
Ouais.
On nous demande, oui, le légendaire Agricola. Est-ce que tu veux donner des nouvelles de ce mythe de la préparation physique à l'italienne ?
Ben, Riccardo Agricola, qui était le docteur de la Juve à l'époque Moji et qui était revenu ces dernières années, est reparti l'an dernier, il me semble. Donc non, il est sur le marché. D'ailleurs, j'étais étonné que le PSG ne se positionne pas au moment de remplacer Martin Buchheit à la direction de la performance. Mais non, il est sur le marché, visiblement.
Voilà. Non, il y avait d'autres questions que j'ai retenues. Est-ce que le focus de Leonardo sur le marché italien nous dérange ? Qui veut se lancer ? Oui, Mathieu.
Non, mais c'est complètement faux. Combien de joueurs il a recruté en Italie, Leonardo, depuis son retour ? Je vous fais la réponse rapide. C'est un seul, c'est Icardi.
Non mais c'est vrai, hein. Et puis même...
Il a plus recruté en Angleterre ou en Espagne. Donc,
C'est vrai qu'il a pris... En Espagne, il a pris Navas notamment. Est-ce que Sarabia, c'est lui en partie mais pas totalement? Herrera venait d'Angleterre, Gay Angleterre.
Gay d'Angleterre, Diallo d'Allemagne.
Diallo d'Allemagne, ouais. Après c'est vrai qu'il n'était pas loin de faire Deciglio, Kurzawa. Mais donc, voilà. Après c'est sûr que ses réseaux vont plus naturellement vers l'Italie, mais bon, c'est comme ça.
Après c'est aussi peut-être plus simple de prendre des joueurs en Italie parce que les prix sont pas forcément les mêmes qu'en Angleterre par exemple,
et les salaires non plus.
Si tu compares Pogba et Milinkovic-Savic, il y en a un qui est éventuellement accessible même à un prix très cher, et l'autre qui est pas du tout atteignable, qui est Pogba. Donc voilà, c'est aussi peut-être pour ça que tu vas vers l'un plutôt que vers l'autre. Donc,
voilà une réponse, les prix tout simplement, les prix, l'Angleterre, les salaires sont délirants, les prix sont délirants, donc voilà. C'est pour ça que globalement, il y a d'autres. Les trois autres grands championnats européens sont moins chers. C'est pas une honte, c'est. Voilà, faut le dire, quoi. Notre avis sur Zobozla, il a le fameux Hongrois de Salzbourg qui a été placé dans le viseur du PSG depuis quelques jours sans qu'on soit trop certain qu'il soit vraiment une piste. Moi, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai jamais vu jouer, je crois. Ou je l'ai vu peut-être une fois, donc je n'ai pas d'avis spécialement pertinent. Mathieu, tu le connais, toi ?
Mais a priori, vu le poste, c'est... Non, je ne le connais pas trop, mais a priori, vu le poste, c'est un joueur qui circule beaucoup au Milan, hein, donc, ces dernières semaines, avec l'éventuelle arrivée de Rangnick. Mais vu le poste, j'imagine que ce serait essentiellement en cas de départ de Draxler. Donc on n'y est pas encore.
Voilà. Simon ou Omar, vous l'avez déjà vu jouer, ce fameux Hongrois de 19 ans qui vaut déjà 25 millions?
Ouais, je l'ai déjà vu, mais entre voir un joueur et se pencher en détail sur lui, il y a un monde. Donc j'ai pas trop d'avis sur lui, personnellement. Je saurais pas trop vous le décrire bien en détail.
D'accord, bon, voilà, en gros, honnêtement, des gens qui le connaissent, j'en connais très peu, il a plutôt une bonne cote, ouais, on parle de 25, Arsenal, 25 millions, Arsenal, Milan AC notamment, c'est un peu l'usine à joueurs de Salzbourg, donc il sort beaucoup de bons joueurs, faut quand même le dire, donc voilà. On nous dit, vous en pensez quoi de l'intégration de ce Kaïs Ruiz et pas celle de Xavi Simons? Bah, la différence, c'est qu'il y en a un qui est de 2002, Kaïs Ruiz, et l'autre de 2003, Xavi Simons, et ce ne sont que deux ou trois séances d'entraînement de début de saison. C'est pas forcément la vérité absolue d'un point de vue sportif. Faut pas non plus en faire trop, quoi. Enfin, honnêtement, on a vu des fois des joueurs à l'entraînement qui ont fait une semaine et c'est pas la compétition, quoi. Ce que je veux dire, c'est que au bout d'un moment, s'il est bon, bah, il restera. S'il n'est pas bon, il jouera pas ou il sortira ou voilà, quoi. Après, n'oubliez pas un truc, c'est que si le PSG veut vendre Kaïs Ruiz, le montrer avec les professionnels, c'est aussi une façon de l'exposer et de faire monter sa valeur, quoi. Ouais, je sais pas si c'est le but, hein, je dis ça, mais c'est un grand classique du football de haut niveau, que pour vendre un joueur, tu l'exposes un peu, quoi. Donc voilà. Est-ce que c'est fini les podcasts du jeudi? Normalement non, mais j'avoue que j'ai pas du tout le temps dernièrement, c'est beaucoup de travail pour les organiser, compliqué, voilà, tout simplement. On nous demande une question, effectivement, que beaucoup se sont posées. Pourquoi Ressé ne s'entraîne pas avec le groupe? Alors, Ressé, il est un peu dans son petit monde en ce moment. Là, vous pouvez le retrouver sur Instagram, à faire des photos comme quoi il est super en forme. Mais en tout cas, en théorie, il est prêté. Enfin, son prêt a été rompu, donc il est même plus prêté. Mais est-ce que le PSG va lui permettre de s'entraîner avec le groupe, sachant qu'il ne pourra pas jouer? C'est une question. Ou est-ce qu'il ne reviendra que plus tard? Est-ce qu'il reviendra au 1er juillet? Voilà. C'est pas très très clair, honnêtement. Ça fait partie des zones d'ombre. On ne sait pas exactement ce qu'il a. Et je ne suis pas sûr que le PSG compte beaucoup sur lui non plus. On risque plutôt de se rediriger vers une rupture de contrat qu'autre chose, quoi. Et on nous demande, pour finir la Ligue des Champions, poste derrière droit, Kerrer ou Dagba? Je pense qu'il y a unanimité, mais... Oui, Simon?
Bah, poser la question, c'est y répondre. C'est Kerrer. Qui a plus de références, qui est beaucoup mieux développé physiquement, qui globalement a donné satisfaction dans certains gros matchs où on avait besoin de lui avec ses caractéristiques au poste derrière droit d'une défense à 4, pour le coup. J'imagine qu'on partira avec lui titulaire s'il est apte pour les prochains matchs, que ce soit les finales ou la Ligue des Champions, avec Dagba en numéro 2. Dagba qui est un bon joueur d'ailleurs, qui est une très bonne VMA, on me signale. Oui, moi j'aime bien Colin personnellement. Je trouve qu'on évalue très mal ce joueur qui est à mon sens beaucoup plus fort défensivement qu'offensivement, et on a tendance un peu toujours à mal le juger ou à le dénigrer un petit peu parce qu'il apporte pas beaucoup offensivement. Bon, moi personnellement ça me dérange pas plus que ça dans un effectif qui aligne 4 ou 5 joueurs de très haut niveau offensif à chaque match, mais je pense que Kerrer est bien plus prêt à assumer les échéances qui arrivent.
Bon, je pense que ni Mathieu ni Omar n'iront dans un sens contraire à Simon, à moins que je me trompe, mais bizarrement, connaissant leurs habitudes, je ne pense pas. On nous demande qui a recruté Ressé. Alors Ressé, voilà, c'est un long processus de recrutement. En fait, à l'été 2016, le PSG doit remplacer Zlatan. Il y a en gros une liste d'attaquants dans laquelle on va avoir plein de noms qui vont sortir. Lacazette, Morata...
Maka aussi, non?
Qui ça?
Carlos
Bacca aussi, voilà. Et puis ça se fait pas. Donc on descend dans la liste et on arrive à Ressé. Et à ce moment-là, bah, le PSG, le recrutement avait été très mal préparé. Personne savait trop qui était vraiment Ressé. Il demande à Emery qui vient d'arriver, on le prend. Emery se fait, bon, bah, en Espagne, il était bon, hein, mais bon, je le connais pas plus que ça. Kluivert arrive et on lui dit de finir le deal pour montrer qu'il est crédible en tant que directeur du football. Et voilà comment Ressé se retrouve à Paris. Avec la camiseta, 25 millions et le statut de, entre guillemets, de remplaçant de Zlatan à partager avec Ben Arfa. Voilà, c'est une erreur de recrutement monumentale des trois, parce que l'étang qui n'a pas préparé le dossier, Emery qui a pris trois renseignements mais qui n'en sait pas plus et qui le connaissait que de l'extérieur. et Kluivert qui connaissait rien au football et qui a signé ça sans même avoir un avis pertinent. Donc voilà, c'est, je sais même pas, on peut même pas donner un responsable, c'est un tout. Et puis c'était à l'image de ce club cette saison-là avec un recrutement de l'été 2016 qui restera dans les mémoires entre Ressé, Krikoviak, Ben Arfa, Meunier. Et qui c'est qu'on avait dû prendre encore comme j'en ai oublié un ou pas là? Oh, j'ai bien dû en oublier un qui devait pas être terrible non plus.
Le bon Gonzalo en hiver.
En hiver, on a rajouté Draxler, Lo Celso et Gonzalo Guedes, effectivement.
Non, mais pour l'été, c'était juste ça, plus le retour d'Areola dans les buts.
Voilà, donc autant dire un carnage. Voilà. On nous dit, est-ce que vous pensez que Xavi Simons a un réel avenir au PSG? Après, au départ, il est arrivé, il n'était pas non plus, c'était pas le méga crack annoncé. Il a fait une bonne saison avec les U19 l'an dernier. Il a clairement du talent. Alors ça, faut pas lui retirer son talent. Après, de là, par rapport à ce qui a été annoncé quand il avait 12 ans, il a beaucoup de travail encore. Donc voilà, mais clairement, il peut faire quelque chose. En tout cas, il fera une carrière pro sans aucun doute. Après, jusqu'à quel niveau il peut aller, bah c'est à lui de le dire, quoi. C'est tout. C'est comme ça, quoi. Bon, on a un peu fait le tour en termes de questions, à part s'il y a quelque chose dont vous voulez parler, messieurs, ou pas? Simon, tu veux rajouter quelque chose pour ton grand retour?
Je pense qu'il faudrait souhaiter un joyeux anniversaire à notre numéro 8, milieu de terrain argentin, Leandro Paredes, qui fête ses 26 ans déjà, le temps passe, et on espère qu'il va très bien.
Très bien, bah écoutez, ce sera le mot de la fin. On vous dit peut-être à jeudi pour un podcast, mais je suis pas sûr, vraiment, parce que ça prend beaucoup de temps, comme je l'ai dit. On vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, pouce vers le bas si ça vous a pas plu. Mais bon, on a quand même passé 50 minutes à répondre à votre question, alors faudrait quand même nous remercier un peu. Hein. Voilà. Le Tipeee est toujours actif. Merci à toutes les personnes qui ont fait des dons récemment, c'est franchement cool. Le site repart toujours, va toujours bien et va continuer. Voilà, prochain podcast normalement lundi prochain si tout va bien. On ne sait pas trop de quoi on va parler vu qu'il n'y a pas de match encore, mais on espère que ça va le faire. On trouvera bien un thème et voilà. Encore merci pour votre fidélité et à bientôt. Voilà, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.
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 Salut à tous.